un certain appareillage technologique qui est en fait assez léger, un plugin Firefox, un petit truc qu'on peut copier sur le web. Un petit peu, si on veut, la glue permet de mettre ensemble ce qu'il faut pour que finalement, pour l'usager, tout ce qu'il a à faire, c'est sortir dehors, s'en aller dans le champ, dans le bois, derrière chez eux, prendre des photos, et puis revenir, et puis indiquer les informations auxquelles tu connais. Pointer sur une carte où est-ce qu'il a observé les spécimens. Indiquer le nom de plus précisément le nom de la chose qu'il a observée. Et puis, quand est-ce qu'il a trouvé. Là, il upload sa photo sur quelqu'un, les tags se mettent tout seul, puis ça s'en va dans une base de données sémantique. C'est représenté dans le formalisme du log sémantique, toutes les informations que la personne a trouvées. Et puis, la base de données grossit comme ça avec chaque contribution de la personne. Un des aspects qui est vraiment intéressant, c'est que si tu vois une bébite, tu ne sais pas plus de choses sur ça que c'est une bébite, tu mets une bébite. Et après ça, il y a du monde qui surveille le stream, mettons des entomologistes, ils surveillent le stream bébite. Ça s'en va à, ils appellent ça un crowdsourcing d'identification plus spécifique. Fait qu'il y a des gens qui vont regarder ta photo pour dire, cette bébite-là, c'est cette bébite-là. Fait que.
Mais ça joue beaucoup sur les masses critiques, ça veut dire un minimum de masse critique pour.
Exactement. C'est ça. Jusqu'à date, il y a 1200 observations qui rentrent dedans, c'est encore un petit point. Mais évidemment, c'est ça, ce qui est intéressant à réfléchir d'un autre point de vue, c'est une fois que ton idée est là, qui est implantée, comment tu fais grossir la. Comment tu fais grossir
la. L'image que ça me donne, c'est super pertinent, c'est un peu comme les bibliothèques, on parle de la grande bibliothèque, lui qui venait, ça s'en va bientôt. Allez-vous des fois des chercheurs à rentrer dans la bibliothèque pour faire de la fouille, des games, comme si c'était tout. Croche, puis que le chercheur il fouillait. C'est vrai, dans les faits, c'est vrai, quand on a trop d'informations, ça vient du digging, tu vois, de l'archéologie. De toute façon, même quand c'est bien
dit. Même quand c'est déjà organisé.
Mais là, au fond, c'est pour les biologistes, là, avant, c'est cette idée géniale, au fond, biopiste. Là, ils vont peut-être rentrer, là, en fait, pas tout de suite, mais dans un an, ils vont rentrer, puis il y aura une grosse masse désorganisée et taillée. Et quand ils vont rentrer, ils vont pouvoir, en cours de route, bien taillée, puis au fur et à mesure que les biologistes vont rentrer,
c'est ça, en fait, il y a une tolérance à l'imperfection dans cette construit la base, au moins on identifie où est-ce qu'on a pris la photo, puis la photo est là. Puis à mesure que ça grossit, on va faire de quoi avec.
Tu dirais-tu que cette tolérance à l'imperfection, c'est peut-être l'affaire la plus dure à mettre en place? C'est-à-dire que s'il n'y a pas déjà ça dans un milieu, c'est pour ça qu'on essaie d'appliquer ça comme généralement.
Oui, si tu veux faire c'est une hypothèse de travail, probablement. Qui vaut la peine d'être inspecté, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que c'est une condition essentielle à une préservation large que de tolérer
l'imperfection? Il me semble que oui, j'imagine le biais que ça cause. Je suis sûr qu'il y a plus de photos de petites bébites colorées que d'une petite bébite brune à six pattes banales qui attirera pas les mêmes photos. Et ça, c'est un biais expérimental dont il faut tenir compte. Et comment on analyse le fait qu'on tient compte de ça?
Ouais. Que si on voit une bébite colorée à Montréal, au moins je sais qu'il est à Montréal, mais que l'imperfection est une chose, le mensonge, comment ils font pour. Moi, je peux faire quoi, j'ai vu ça à Tahiti. Comment ils guident avec ça?
Ils ne sont pas rendus encore. Je pense qu'ils ne sont pas rendus à ça. La masse n'est pas assez grosse pour commencer à faire de l'imperfection. C'est comme les premiers temps de Wikipédia, où est-ce que tout le
monde. Mais ça, c'est intéressant, parce que je suis sûr que dans les étapes de croissance d'une communauté, il y a tout le temps. Une phase où c'est spam, mensonge,
désinformation.
Puis là, que le FAQ qui monte. Les règlements qui rentrent.
En fait, là, tu dis, ah shit, j'ai besoin d'un admin dans mon système.
Mais c'est
une
question de vie au début.
Le seuil de tolérance de sondage.
Ça pourrait être ça aussi. Si c'est juste des blips de. En fait, si sur une grande quantité d'informations, il y a une variance possible de.
Bon, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, en même temps que la possibilité d'erreur, est-ce qu'il n'y a pas aussi un principe d'autocorrection? Si on prend Wikipédia, ben, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur un article, donc les risques qu'il y ait des erreurs dans un article sont minimisés par le fait qu'il y a plusieurs personnes qui.
Oui, ben dans ce cas-ci, on parle d'informations qui n'est pas vraiment vérifiable parce que. Pas facilement vérifiable. C'est sûr, si j'ai posé un arbre, j'ai des coordonnées GPS précises, quelqu'un peut se rendre et aller voir si l'arbre est là. Si j'ai photographié un lézard, là, qui c'est qui va aller voir?
Qui c'est
qui a le temps d'aller là, dans le milieu du désert du Nevada?
C'est
là.
Ça,
d'aller voir s'il y a encore un lézard là.
Pour résoudre ça par l'outil, ça ne peut venir que des iPhones qui ont un plan de GPS.
Ouais, mais tout...
Non, mais
moi,
en fait,
c'est ça, je dirais qu'en même temps de supporter l'imperfection, il faut supporter l'imperfection des outils aussi, c'est-à-dire que ça doit être d'autres choses qui renforcent la corrélation, pas nécessairement, c'est absolument certain. Puis, je trouve ça intéressant parce que il me semble que dans le domaine des sciences, qui est basé sur le modèle classique de « j'ai une hypothèse », ça devrait super bien fonctionner, ce genre de système collaboratif. Donc, ça n'a pas, effectivement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent d'autres expériences, d'autres communautés scientifiques qui utilisent des outils qui sont similaires à ça?
L'identification des galaxies.
Oui, mis à part
cette. Il y a eu une expérience à un moment donné où on demandait aux élèves dans les écoles de prendre des données météorologiques et de capturer ça pour les modèles météorologiques.
Sont un peu géographiques, c'est clair qu'on ne peut pas être partout en même temps et que outsourcer ça. Surtout, justement, l'idée d'utiliser, de mettre à profit, disons, la contribution d'étudiants, qui sont dans des classes de sciences naturelles, en 5e année, 6e année, sont capables de faire ça. Le projet dont je vous parle, de sortir, prendre une photo, moi, je vois bien les enfants à l'école de faire ça.
Le club des jeunes naturalistes.
Imagine-toi, qu'est-ce que tu expliques à ta fille de 5 ans quand tu dis professeur un tel, doctorat de telle université qui est venu te dire c'était quoi l'espèce que tu avais photographiée dans ta cour. Ça change le monde.
Les cartes avec les photos flicker, les cartes de localisation, trouvées sur une carte. Vous êtes au courant de ça?
Oui.
Ils sont allés chercher
des
endroits d'après les maps, d'après les photos.
Oui, c'est ça. Ils ont déterminé que, par exemple, qu'est-ce qui est le plateau à Montréal? Ils ont pris toutes les photos géolocalisées qui avaient le tag plateau. Puis ils ont dit, ça c'est le plateau.
OK.
Il y avait tellement de données que...
Ils ont fait une reconstruction de ce sont les street views, tu vois.
En fait, c'est
de la géographie des lieux dits, en fait. C'est que tu fais des boundaries virtuelles du nombre de fois que ça a été dit, comme le plateau. Ou un quartier à Soho, ou Chaumédé à Laval. C'est quoi Chaumédé? Mais chaque fois qu'une photo est taguée avec le mot Chaumédé, tu finis par déterminer ses limites. Puis c'est là.
La frontière.
Ah, si, ça détermine la frontière.
Oui, parce que. Oui, parce
que... On peut avoir tous les animaux pareils sur une carte, comme ça.
Parce que c'est la différence entre la géographie officielle. Vous êtes dans le Chaumédé. Mais les gens, comme par exemple dans Montréal, je travaille avec des données géographiques, je peux vous en parler, là, mais tu sais, c'est pas parce que les villes ont fusionné avec Montréal que les gens arrêtent d'appeler ça Ville-Saint-Laurent ou à Laval, même chose. Tu sais, fait ce que les gens déclarent, là, quand on a assez de bruit, quand on a assez de feed, quand on a assez de volume, on peut se fier là-dessus, en tout cas, utiliser ça comme une ligne. Exact. Puis je pense que c'est vrai aussi, tu sais, si. Tout le monde appelle ça une bibitte à patates. Ben, c'est une coccinelle, mais c'est un synonyme. Puis dans les taxonomies, dans l'organisation, ça devient. Oui, c'est ça aussi.
Oui, tu dois le refléter dedans parce que les gens vont chercher avec le mot bibitte à patates. Tu utilises les mots que les gens utilisent si tu veux que ton système marche. Puis ça, c'est l'idée en arrière de toutes les musiques qui permettent aux gens de taguer aujourd'hui.
C'est la base du SEO en général. Tu vas être trouvé,
tu vas chercher les mots que les gens vont utiliser pour te trouver. La deuxième affaire dont je voulais parler, c'était. Pensez-vous que c'est un bon moment? Je vais en parler tout de suite. OK. Fait que ça, c'est pas dans le domaine de la bio partout, c'est au niveau des mathématiques. Sciences exactes, s'il en est une. OK. Il y a un blogueur mathématique qui est en fait une sommité en mathématiques, qui a reçu la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques en 1918. Puis là, il bloque depuis un certain temps, et puis ça lui rebondissait dans la tête l'idée de faire un effort de collaboration de masse sur un problème mathématique. Ça, c'était, à ma connaissance, jamais fait. Si on, à l'exception peut-être du projet Manhattan, qui était un projet de développement d'une bombe atomique, mais qui avait une composante...
C'est
très top-down. Très top-down, mais quand même 2000 chercheurs qui travaillaient non-stop dans les années 40 pour essayer de craquer le secret de la bombe atomique. Ça, c'était un gros effort de masse, mais il n'était pas ouvert. à n'importe qui. Là. C'est clair que les Allemands ne sont pas invités.
Les Allemands qui n'étaient pas rendus aux États-Unis.
Parce que ouais, c'est vrai, c'est ça. Exact. C'est ça, c'est le concert de place. Bon, fait anyway, le gars s'appelle Tim Gowers, et puis sur son blog, en ligne, il dit là, on le fait. Là. This time is for real. Il dit, c'est passionnant, on en parle. Ça, il dit, dans 2-3 jours, on va partir en effort de collaboration de masse. Il dit, je vous propose de travailler sur ce problème-là. Puis il explique le problème, tu sais, toutes les idées qu'il y a eu sur le problème mathématique ouvert, donc un problème qui n'avait jamais été résolu. Qui attendait une preuve, en fait une conjecture à prouver qui avait l'air difficile à faire, mais peut-être faisable. Il disait peut-être que si je travaillais seul là-dessus, j'arriverais à trouver une preuve d'ici 3-4 ans. Là-dessus. Puis là, il a dit ce qu'on va faire, c'est que je vais établir deux règles essentielles. La première règle, c'est soyez poli. La deuxième règle, c'est une idée par poste, une idée par commentaire. Okay? Et on va travailler sur tout dans mon blog. Fait que ils ont part. Que les gens se mettent à commenter. Lui, ce qu'il a donné, en fait, c'est un certain nombre de pistes de résolution. Il dit peut-être qu'on pourrait attaquer le problème par là, peut-être par là, peut-être par là, pour que ça se rejoigne. Je ne sais pas si tu as fait des bras dans l'œuf, mais c'est
oui.
Dur. C'est vraiment dur. Mais ce que tu essaies de faire, c'est que ton bout ici, que ton bout là, puis tu essaies de trouver des affaires qui vont cheminer, puis arriver là, puis en cours de route, tu rencontres plein de trucs qui finalement, tu réussis par elle. Tu finis par essayer ça, puis tu fais, fuck, ça ne marche pas. Je vais l'essayer pour un égale 3. Fait anyway. Il a fait ça de même. Et puis, les gens se sont mis à rentrer là, par douzaines. C'est des mathématiciens. Fait qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y en ait des milliards de participants. Puis, juste pour comprendre c'est quoi le maudit problème, moi, je comprends pas ce que c'est le problème. J'ai une formation en physique. Fait que, quand même, mais il y avait une communauté préexistante de gens qui suivaient son blog. T'sais, le gars, ouais. Il a une célébrité. Ça, c'est un facteur de succès, assurément. Peut-être pas essentiel, mais ça s'est permis d'intéresser et d'exceller. Donc, les mathématiciens sont venus. En gros, là, je fais l'histoire courte. Au bout de 6 semaines, le problème était non seulement résolu, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus général. Donc, la question initiale est un cas particulier de ce qu'ils avaient trouvé. Donc, un grand succès.
Je vais vous laisser parler, je suis pas capable. Puis ça fait combien de
temps que c'est commencé? J'ai commencé ça au mois de mars. En 6 semaines, c'était fini.
Wow.
Lui, son estimé, ça va prendre plusieurs années.
4 ans, il disait 4 ans. C'est ce que tu avais dit? Non, c'est ce que je te cite.
C'est ça, mais je me souviens pas de ce qu'il avait dit. Mais c'était de cet ordre-là.
On n'a pas le même phénomène.
C'est un peu la même chose. J'essaie de résoudre tel problème technique. Voici mon code. Puis ça ramène à l'imperfection. Tu sais, c'est pas bon. J'ai écrit ça dans un après-midi. First crack à dire, voici mon premier essai. Ça fait à peu près ce qu'on a besoin.
Mais nous, c'est le dire, c'est une façon structurée de proposer des problèmes, justement.
Avec un
modèle d'affaires.
Mais c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que pour que t'aies, moi je trouve ça intéressant, il a établi c'est quoi la structure de participation,
ouais.
Une idée par commentaire, parce qu'après ça tu peux pas les détacher. Puis dans les projets open source, c'est un peu la même affaire, tu sais, voici le code source, tu peux faire un check-in, tu peux faire un check-out, fait que la méthode de participation est établie et préexistante.
Ouais.
Pour faire un parallèle, souvent, moi je c'est compliqué de faire un bon logiciel. Ça prend, d'après moi, 10 ans pour un projet open source qui doit être meilleur que son équivalent commercial sur lequel il y a quelqu'un qui a travaillé 2-3 ans. Mais quand il est rendu meilleur, 10 ans après, il est imbattable. Comme par exemple Apache, les serveurs web. Donc, il y a 80%, 70% des gens qui utilisent ça parce que c'était la meilleure solution. Si tu verrais ailleurs, ça aussi, c'est-à-dire qu'en mathématiques, une fois que ce processus-là est parti, là, c'est what's next? C'est va en sortir un autre.
Ben, c'est
intéressant comme question de...
Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est qu'il y a moyen de cibler les problèmes et de les résoudre beaucoup plus rapidement. Je ne suis pas capable de parler plus, je vais vous laisser ça. De toute façon, je vais assez parler.
J'aimerais à l'occasion avoir les adresses Twitter de tout le monde. Mais je suis censé le faire en direct sur l'ordinateur, que j'oublie ça, parce que c'est une lenteur pour poster une ligne, ça prend 5 minutes. Donc, je ne sais pas, je Ouais. Vous avez chacun votre tour si vous en avez un.
On pourrait mettre un panel comme ça, une feuille sur le mur.
Ouais. Chacun mettre son.
Vous pouvez aussi aller, c'est ça, online sur webcampmontréal.org. Il y a un wiki, mais là, si le réseau n'est pas bon, ça n'aidera pas. On va prendre offline.
Mais à ce sujet de ce problème-là, j'en discutais avec Alexandre dernièrement. Ça prend une façon, là, ça c'est un lazy web request, là. Ça prend une façon de ramasser tous les gens qui postent avec une tag, puis d'en faire une liste. Comme ça, on aurait juste à faire une liste avec webcam, puis la liste serait faite.
Tu mets ça en public, puis tu envoies ça sur Identica, je te garantis que ça existe dans une semaine.
Ouais, ou ça existe peut-être déjà.
Ou ça. Mais c'était un autre bon exemple de collaboration où, si tu parles lazy web, là, tu sais, les gens commençaient à utiliser ça une couple de. Parce que plusieurs années, en tout cas, mais ils disaient comme. Hey, moi, y a-tu quelqu'un qui connaît ça où je pitch une bouteille sur le web, là, une bouteille à la mer sur le web? Est-ce quelqu'un qui sait comment faire ça? Puis là, il y a quelqu'un qui rase. Ah, oh, ben, ce serait cool de régler ce problème-là. Je vais essayer de régler ce problème-là. Puis cette chaîne-là est assez intéressante dans les processus de collaboration aussi, de dire que c'est possible que ton rôle dans un processus de collaboration, ça soit de lancer une idée. C'est une tout aussi bonne participation que de répondre, de donner un commentaire, de faire avancer le projet, peu importe le projet. C'est bon? On change-tu de sujet? Mais tiens, on va suivre la liste, c'est bien parti, parce que transparence, créativité, je trouve que ça marche bien avec collaboration. Quoi. C'est une question qu'on peut se poser. Karine?
Ben, comme je vous disais, je m'intéresse beaucoup à la transparence dans les communications d'entreprise. Si je veux garder dans l'actualité avec le faux blog de Dixie, je me demandais en fait.
Mais c'est un vrai blog.
Oui, c'est un vrai blog. Ben, en fait, c'est ça que je me demande. Si le manque de transparence dans les communications des entreprises, ça ne va pas faire un manque de crédibilité pour toutes les autres entreprises ou tous les autres blogueurs. Donc, c'est une pratique qu'on doit accepter ou qu'on doit faire, qu'on doit réagir pour pas qu'il y ait du marketing.
Mais est-ce qu'on a le choix?
Ben, il y a toujours le choix.
Est-ce qu'on peut empêcher ça? Mais continue, je ne suis pas mon. C'est pas le dernier sujet, est-ce qu'on dit?
Ben, j'ai pas grand-chose à dire, en fait, c'est juste ce questionnement-là. Que, si on l'espère, si on est tout compte à maner, ça peut aussi l'empêcher. S'il y a des gens que ça leur dérange pas, cette pratique-là, mais je pense vraiment que. Un faux blog comme ça, ça va nuire vraiment à la crédibilité de toutes les entreprises qui essaient de communiquer avec les consommateurs via les médias sociaux. Donc,
mais comme de la même façon qu'en pub, il y a un conseil, le council, je ne sais pas quoi, puis si tu es mensonger dans tes pubs, tu peux laisser une place pour déposer une plainte.
Tu n'as pas le droit de faire des faux reportages, tu n'as pas le droit de faire la fausse publicité. Ça, c'est sûr, mais sur le web, l'avantage, c'est plus facile à poigner. Donc, s'il y avait quelque chose.
C'est potentiellement plus facile.
Ça ressemble un peu à ce que tu disais dans les communautés. C'est un nouveau produit, puis toutes les façons que ça peut être gamé, ça va être gamé. Ouais. Mais il va y avoir des gamés qui vont se faire. Donc, plus il y a des gens qui vont se faire poigner, plus les comportements vont changer. Parce que ceux qui voient ce que Moreau prend dans la tête en ce moment, justement, avec les pixels, c'est ça qu'il va vouloir faire prendre.
Ben, vous pensez? Je sais pas, j'ai lu un blog par rapport à ça, qu'il y avait tout le monde qui était pour cette pratique-là, parlez-en bien, parlez-en mal, même parlez-en.
Ça, c'est la philosophie de la pub.
Oui, et on sait tous que l'industrie de la pub est en croissance extraordinaire présentement, et les médias qui sont supportés par la pub vont très bien. Mais non, mais c'est un bon point. Puis moi, une de mes réflexions, c'était, je pense que c'est Normand Miron sur son blog, qui disait le pire dans l'histoire de Bixi, là, c'est qu'il n'y avait même pas besoin des faux blogueurs. C'est extraordinaire le projet. Il y en aurait pu en trouver plein de vrais blogueurs qui parleraient avec enthousiasme, des employés qui auraient communiqué sur qu'est-ce qu'ils font. C'est ça le pire, je trouve, dans cette histoire-là. Mais si tu dis comme une affaire de crap, de pyramide financière, il y en a plein de faux blogueurs.
Le problème, c'est qu'on le voit toujours à posteriori, puis moi, je suis comme bénévolement, je peux voir la difficulté, c'est le passage, de traverser les choses. Ils doivent viser avant que ça va marcher pour dépenser. Alors, le seul moyen, c'est de faire d'avoir les preuves, c'est de dire, ben, lui qui sait bien écrire, le langage. Tu lui montres ton truc à tout.
Mais il y a une différence entre un blogueur à gage. C'est mon expression que j'utilise pour ça. par exemple, Tourisme Montréal a engagé des blogueurs, a dit on engage des blogueurs pour bloguer sur Montréal. Ils n'ont pas fait à croire que ce n'étaient pas des blogueurs engagés.
Mais là, on parle de Montréal en tant qu'État tout court, alors que Vixi allait le vendre ce mois-là ou cette saison-là, comme une mission très marketing 1.0, condamnée par des échéances et un budget. Ça les force à rentrer dans ce truc-là. S'il y avait avant l'idée de prendre un vélo at large au lieu de prendre la voiture, là, il y aurait pu effectivement, eux, il n'y aurait peut-être pas pensé à ça, effectivement, mais on aurait pu le dire, quand on engage, ça marche, parce qu'il n'y a pas de but à atteindre,
mais
on a déjà dépensé sur
ça. Mais non, mais le bon point, c'est vraiment une question de comment, c'est quoi ta stratégie pour entrer dans le marché? Je te donne un exemple. Quand on a commencé Praise, pendant un an, on n'avait pas de produit, on n'avait même pas de compagnie au début. On a parti un blog dans notre espace d'idées, dans notre créneau, dans notre MySpace. Sébastien s'est mis à écrire là-dessus. Quand on a lancé notre produit, on avait déjà des lecteurs qui étaient influents. Fait qu'il n'y avait pas le temps de faire ça, potentiellement.
Là, je ne veux pas défendre cette erreur, parce que j'ai pas compris, mais c'est que...
Non, mais il faut comprendre la mécanique.
Dans votre chaîne de commande, vous n'avez pas à convaincre quelqu'un de dire « Je vais dépenser quelques longueurs de Sébastien. » Tant d'argent pour arriver à quoi? Elle ne sait pas encore, tu sais. Mais vous savez, vous savez que ça allait marcher. Mais ceux qui, en 3 mois, devaient réussir ceci, cela, d'après les chaînes...
J'aimerais ça savoir c'était quoi le budget. Non, parce que la question, c'est, si tu mets de l'argent là, tu penses que ça va être plus efficace que d'acheter des panneaux sur le bord de la route, mettons. Tu sais, il y a une décision, quelqu'un qui a dit... C'est une bonne idée de faire ça parce qu'on va avoir un résultat.
Le marketing en général, tu vas sur le web quand tu as moins d'argent. En tout cas, à cette époque-là, c'était ça. J'ai moins de budget, allant sur le web, ça coûte moins cher. C'est ça la seule réflexion que j'ai dû avoir.
OK, Sébastien, Bruno, après.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me résumer l'histoire de Wixi parce que, apparemment, j'étais un nouveau programme quand
c'est le real time.
C'est quoi, hier, avant-hier?
Avant-hier, dans la presse, Patrick Lagacé a fait un article comme quoi. Il y avait à Vélo Citoyen, qui est un blog, qui ont annoncé en primeur qu'il y avait des photos et des vidéos sur Vixi. C'était 3 blogueurs engagés par Stationnement Montréal pour bloguer sous des faux noms. Il y avait des vrais amis Facebook, mais c'était des fausses personnes. C'est Karine Gomez, je ne sais pas quoi, n'existe pas. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Puis qui a socialement acquis en disant ben, qu'il s'est rajouté assez de personnes pour que quand tu vois son nom, il t'a mis tous aux autres de tes amis, tu dis oui. C'était quand même. Moi, j'ai regardé ça et je me dis, c'était quand même bien fait.
Au niveau réalisation, il n'y a aucun doute.
C'est
tout à fait.
Comment c'est sorti que c'était pas les vrais?
C'est Patrick Lagacé qui a fait un article. Anonymous Tip. Quelqu'un lui a dit Monsieur Moreau, tu pourrais parler de Dixie. Ou quelque chose dans le même, je ne sais pas où c'est quoi, mais.
Monsieur
Moreau,
c'est
l'agence.
C'est l'agence.
Ah, il a une longue histoire.
Ouais,
tu connais.
Ça me fait
penser. Oui. Qui a sa propre agence.
C'était
pas mal de
succès.
Il
parle de la fortune,
hein.
Qui
s'est fermée.
Monsieur Archive
InfoPresse.
En fait, je sais quoi sa agence, qui était gérée par sa femme. Et le jour où il s'est séparé de sa femme pour sortir avec son agence a chuté parce que c'était sa femme qui administrait son truc. Donc il est devenu conseiller politique. Et enfin, il a fait les liens avec l'AMR, il a obtenu une commission de télévision, il a été conseiller privé de Jean Chrétien, en particulier pour le gouvernement, c'est la gang Jean Chrétien, pas la gang Paul Mac. Puis là, il est conseiller depuis plusieurs années avec le succès français du maire. Et c'est effectivement ce qui est le temps que quand les affreux-là s'est commencé à devenir le maire de Montréal, Lagacé, je ne sais pas qui a sorti.
On ne
sait quand même pas exagéré parce qu'ils ont tous les deux le même conseiller qui est madame, le conseiller qui est tremblé. Les affreux-là ont fait des articles dans la presse pour se souvenir de la tremblé. Lui au moins il était le maire.
Mais, mon histoire, c'était pas là-dessus, c'était sur le fait que les agences essayent tout, mais on est dans un terrain glissant et nouveau, et tout change. Comme dit dans les communautés, les gens essayent tout aussi de gagner un petit peu. Mais une agence, j'ai eu connaissance, même si je suis plus dans la pub depuis 10 ans, la formation, qui a sorti une fausse nouvelle avec YouTube, avec tout, avec créant un site, etc., pour lancer un film qui était... ils ont dit qu'ils allaient débaptiser la rue Saint-Laurent pour l'appeler... boulevard, etc., pour soutenir le nom d'un film québécois qui allait sortir, et puis tous les journaux en ont parlé, puis etc. Donc, utilisation d'Internet intelligent par la publicité. Tous les journaux parlent qui sont ces gens qui veulent appeler boulevard Saint-Laurent du nom d'un inconnu absolu. Mais qui se trouvait être le héros principal du film québécois Trix, utilisé pour les plans de mémoire. Donc ça a marché, les journaux en ont parlé, ça a été bien facturé aux clients, c'est une opération comme tu dis, publicitaire, mesurée, retombée, Quelques mois plus tard, ils recommencent le coup, ils font pour un client X, ils font apparaître quelqu'un a pris avec son iPhone une bibitte dans le fleuve devant Québec. C'était quelqu'un qui était un touriste, etc. Sauf que là, les gens ont fait
le lien.
C'est sorti que c'était, ça venait d'une agence dans les 24 heures. Dans les 24 heures, c'est sorti. Et là, l'histoire est devenue, ils se sont fait prendre. Et la mesure du ils se sont fait prendre était suffisante pour que le client considère que l'opération était réussie. Sauf que l'agence s'en fait plus de ce truc-là, parce que...
Il y avait deux coups.
C'est risqué.
Il y avait le coup, ça marche, puis le coup, tu te fais prendre après ça.
C'est ça. Donc maintenant, tu réfléchis, puis je pense que les gens qui sont en train de planter, on apprend tous à se servir des outils, puis les agences apprennent encore plus que nous. On est beaucoup plus avancé que la plupart des agences.
Oui.
Donc, ils vont tout essayer.
Non, mais on sous-estime beaucoup les agences. Moi, je vous raconte une petite histoire qui est intéressante. En tant que geek là, du web, on est très anti-agence, par culture peut-être, mais j'ai été consultant pour ces agences-là puis ces grandes compagnies-là quand j'étais à mon compte. Puis un midi, tous les vendredis midi, une fois par mois, chez Cossette, ils font qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui se fait de cutting edge. Puis tu as des gens hyper brillants dans ces agences-là. La problématique, c'est le client, l'idée. On fait-tu de l'argent avec ça? C'est-tu rentable pour l'agence? Puis on avance-tu? Puis c'était les gars de Molson à l'époque qui relançaient les vrais fans. C'était la campagne de Molson ou O'Keefe. Là, je sais pas, vous voyez que ça a pas fait de gros effet. Mais puis là, il a fait plein de stunts avec des caméras à l'époque. Là, c'était le début de YouTube. Fait que là, il y avait, pendant le défilé de la Coupe du Monde à Montréal, quand les Français ont gagné et les Portugais, ils envoient un camion avec des gars du Canadien, puis c'était comme vrais fans de hockey. T'sais, c'est le défilé de soccer, puis les gars sont là avec leur affaire de hockey. Il y en a fait comme cinq. C'était très léger, là. C'était un réalisateur, une personne en caméra. Puis ils mettaient sur YouTube. Mais c'était clair que c'était Molson, parce que la signature suivait. Fait que ça marchait très bien. Fait que souvent, je pense que c'est juste l'angle que tu prends. Même cas,
ma réalisatrice,
travaille des producteurs télé, quelqu'un dit, est-ce qu'on fait, elle dit, on devrait faire exister ton personnage sur le web 2 ans avant que la série commence à la télé. C'est extraordinaire. On crée un compte Facebook, un blog. Mais là, c'est une émission pour enfants, puis c'est un personnage qui est présenté comme un personnage. C'est pas une rédaction. Il y a quelqu'un, il y a un acteur, il y a quelqu'un, un rédacteur qui va faire le personnage. Qui va interagir pour vrai, qui va vraiment le voir. Mais on va savoir quand c'est un personnage. Puis la question, c'était comment on présente ce personnage-là? Ben, c'est peut-être plus un dessin qu'une photo. Je ne sais pas, parce qu'ils n'ont pas choisi avec qui, le comédien ou la comédienne du personnage, 2 ans d'avance. Mais la question, c'était comment tu fais un personnage en ligne. Chez Praise, on est tous des fans de Twitter. T'sais, on appelle ça des mascottes. Des mascottes sur Twitter, là. C'est une compagnie, c'est un nom, tu ne sais pas trop c'est qui, c'est une mascotte. Qu'est-ce que tu fais avec les mascottes? Es-tu crédible? Es-tu pas crédible? Comment tu représentes une marque dans des réseaux sociaux où tu as des conversations? Es-tu transparent? Es-tu authentique? On est-tu obligé de dire, hey, c'est. Puis moi, j'avais beaucoup aimé Québec solidaire, qu'est-ce qu'ils ont fait à la dernière campagne, où c'était comme, salut, c'est Anne-Marie. Là, c'est moi qui réponds à Québec solidaire. Je fais passer vos questions aux gens qui sont des experts, puis je suis un relais. Donc, c'était un personnage, c'était un brand, c'était Québec solidaire. Mais la personne. Ah, salut, ça, ou c'est Kevin qui est au clavier ou whatever. Puis ça fonctionnait bien parce que dans la culture de cette organisation-là, ça marche de même. C'est une organisation qui est très participative, c'est tous des bénévoles. Ça ne marche pas aussi bien dans d'autres partis politiques. J'ai parlé à des gens qui travaillent à Québec auprès de d'autres partis politiques. C'est pas mal plus dur quand la culture n'existe pas. Fait que je dirais que la transparence et l'authenticité, ça dépend si ton véhicule, soit corporatif ou une marque, est capable de porter cette authenticité et cette transparence-là. Un, deux.
Okay.
Comme tu dis, Sylvain,
tu as
parlé
un
peu tantôt, ça
aurait
été des vrais blogueurs engagés, ça aurait passé. Ils n'auraient pas eu la personne qui en avait fait un cas, ça aurait été correct.
Est-ce que ça aurait été meilleur pour la marque?
Ben, voilà le point. Est-ce que. Parce que là, on en parle. Puis effectivement.
Il existe deux types de clients de marque. C'est plus ça, c'est ça que qui disait ça, puis je trouve ça brillant. Il existe des marques qui ont vécu dans un monde d'interruption. La télévision se fait couper de 30 secondes qui vit du fait qu'ils peuvent interrompre les renvois de Gillette, ne vivent que par interruption. Le jour qu'il n'y a plus d'interruption, ils vont s'écrouler parce que personne ne va s'identifier à Gillette. Par contre, un Bixi, facilement on peut s'identifier. Donc, c'est plutôt, il faudrait voir le type de client, puis ça rejoint ce que tu disais. Il existe des marques qui profondément vont attirer une communauté autour, d'autres qui ne peuvent pas et eux ne vivent. Que par, ils sont accrochés à un vieux monde qui s'écroule, le monde de l'interruption. Eux, c'est foutu, c'est une question de temps. Parce que
et je dirais aussi que le problème en production, c'est que quand tu fais de l'interruption, tu perds de faire de la conversation et de la continuité.
Gillette ne peut pas faire autrement. Il faut l'interruption. Qui
peut faire peut-être
à une lame, deux lames, trois lames, quatre lames.
Ça me fait penser, tu parlais de Québec solidaire, ça m'a fait penser à autre chose. J'étais à une conférence web société à Toronto et il y avait eu une série de pannes dans le métro de Toronto et le directeur des communications de la société de transport s'était mis à donner un statut sur la panne sur Twitter. Et tout le monde s'est mis à suivre ça parce que tout le monde voulait savoir ce qui se passait. Et il disait, d'une part, c'est génial parce que ça donne un niveau d'interactivité sans précédent. Mais d'autre part, est-ce que une grosse boîte est prête à prendre le risque si quelqu'un travaille dans l'immédiat, il y a plus de possibilités d'erreur, c'est un fait. Et il va falloir que les grosses sociétés soient plus tolérantes à l'erreur. Il va falloir que le public soit plus tolérant à l'erreur.
Oui.
Si on se met à accepter, si on veut si on veut de l'interaction à haute vitesse.
Il y a plusieurs années, moi je disais ça avec des blogs, tu sais, les blogs pour entreprises, tu disais, c'est juste un blog. Okay? C'est juste un blog. C'est pas ton département, c'est pas un communiqué de presse, c'est juste un blog. Fait que baisse la température d'une coche en disant tout de suite que ceci est juste un blog.
Quand t'as un succès, c'est là le problème. Quand l'institution découvre que le blog, tu m'as parlé, comme tu dis, simple, mais il y a un super succès dans
une
sphère, le département de com après arrive en disant ben écoute, regarde, tu éclipses ce qu'on dit. En fait, c'est dans le succès qu'il y a un problème dans le blog.
Non, c'est dans le fait que n'importe quoi n'aime pas se faire glisser.
C'est ça.
En open source, c'est la même chose. Hein? L'open source, c'est super tant que ça vient des TI. Quand quelqu'un s'installe quelque chose et que ça marche mieux que les TI, là, il n'aime pas ça.
Ouais. Mais c'est encore une question de risque. C'est est-ce que les gens sont prêts à tolérer que ben, ça se peut que ça ne marche pas comme tu veux? Avoir un vrai blog, une vraie communauté, ça se peut qu'à un moment donné, quelqu'un se mette à parler contre ton produit. Es-tu prêt à supporter ça? Quand tu as des blogueurs bénévoles dans un parti politique, ça se peut qu'ils ne soient pas toujours on message. Es-tu prêt à supporter ça? C'est vraiment une culture de tolérance au risque et de tolérance à l'erreur pour revenir sur ce qu'on disait plus tôt avec le biosourcing, c'est pareil. Là.
Justement, la solution, ce n'est pas la personnalisation. Moi, j'ai une chose sur Twitter, c'est les business qui tweetent. Ce n'est pas des business qui tweetent, c'est des gens. C'est toujours des gens. Et j'ai aucun problème qu'on dise je m'appelle un tel et je travaille chez un tel, ou je suis le Twitter officiel d'eux, ou tout ça. Mais tous les trucs qui viennent d'une personne, quand c'est pas une personne, ça se voit. Tu parlais de choses politiques, là, j'ai fait le tour un peu l'autre jour parce que quelqu'un a envoyé, Mario a envoyé le lien de tous les politiciens qui sont sur le web. Ouais. Gilles Duceppe a lu. Celui qui fait ça, enfin, lui qui fait ça, c'est un secrétaire qui écrit aujourd'hui on parle de ci, aujourd'hui on parle de ça, on ne parle de ça. Appelle-toi machin, secrétaire de Duceppe, et tout ça, mais que.
Et je représente Duceppe officiellement, ce qui est correct.
Connexion Twitter et par extension dans les blogs, dans tout ça, où c'est c'est une voie personnelle. Et dès que tu dis, puis je trouve que ça peut être un échappatoire pour la transparence, parce que si c'est un tel, de telle compagnie qui parle, ben c'est pas la compagnie qui parle. Tu peux faire des erreurs.
Oui,
parce que tu es une personne. Mais si tu t'appelles CGI, et que CGI fait des monstruosités comme ça, raconte des conneries sur le web, ça va tomber sur CGI. Si c'est Lucien Frappeur de CGI, bon ben, CGI va dire, c'est Lucien qui a fait ça.
C'est excellent, les grandes compagnies vont la conclusion, on a besoin d'un scapegoat. On peut faire sauter quelqu'un si ça se
tape. La transparence amène du fuzzy.
Oui, oui. Aussi. Du fuzzy.
Ou de l'individuel, donc c'est pas l'entreprise qui est collée à ça.
Fait qu'un blog, c'est comme une peluche. ce n'est pas une flèche en métal, c'est une doudou à peluche.
Ça serait drôle de voir la transparence politique qui pourrait être amenée si les politiciens faisaient vraiment le tweet en direct de l'Assemblée nationale.
Ben en fait, il y en a qui parlent de ça, parce que la grosse différence, ça c'est Martin Comeau à Québec, comment ça s'appelle?
Opossum,
qui me parlait de ça. Quand t'es un député, t'es sous l'égide de l'Assemblée nationale, et c'est de l'argent public. Puis c'est ça qu'il disait, tu peux pas parler en ton nom personnel quand t'es un député et t'es en train de travailler, parce que t'es sous la réglementation, il y a des règles. Puis il disait ça exactement. Par contre, ça fait quatre fois que tu déposes ton projet, puis ils répondent pas. Tu peux le dire. Ça fait quatre fois que je dépose ce projet-là. Il n'y a aucune question, complètement tabletté par l'opposition, cite des faits, sans source. Il y a plein de choses que tu peux dire. Il faut juste que tu définisses c'est quoi ton cadre. Et souvent, ce que je trouve qui manque, c'est ce cadre-là. C'est-à-dire, c'est quoi l'étiquette ou ma politique éditoriale, ou ça dépend, c'est quoi, mais c'est quoi le cadre que tu donnes? Puis, la transparence personnelle, c'est la même chose. J'ai fait une couple de conférences récemment pour des consultants. Tu sais, comment tu te présentes sur le web? Mais c'est toi qui définis c'est quoi les balises. Tu sais. Vous m'entendrez très rarement parler de mes enfants dans mes réseaux sociaux, de temps en temps de mention, parce que ça fait partie de ma vie. Mais je ne vais pas toujours, tu sais, je suis pas toujours en train de parler de mes enfants quand je parle de mon travail. Ça, c'était une réflexion que j'ai depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu mets dans ton canal, que ce soit ton blog? Pourquoi j'ai un Twitter en français et en anglais? Même chose. En français, je parle bien plus de trucs locaux. Je ne parle jamais de politique locale presque dans mon Twitter en anglais. Parce que c'était mon Twitter de geek techno international. Fait que c'est un cadre qui est différent. Mais il faut se poser sa question, c'est quoi mon cadre? C'est quoi mon framework de pensée quand je suis dans ce média-là ou dans ce mode-là? Puis quand on est dans plein de médias, dans plein de mode, on peut s'amener des chaises aussi, là, s'il manque de place. D'autres commentaires sur transparence et crédibilité sur Internet?
Ben, en fait, ça peut aussi parler des signes, parce que c'est une question d'institution. Mais c'est sûr qu'académique, c'est pas qu'elle veut seulement se protéger, c'est que ce principe-là, c'est toujours la crédibilité, c'est ce principe d'objectivité, et ainsi de suite. Et la tolérance à l'erreur, en science et de l'aspect personnel, c'est de personnaliser le discours, crée une espèce de reluctance, de dire, on va pas se lancer là-dedans parce que justement, il y a ces problèmes-là.
Ben, les journalistes ont la même chose, c'est est-ce que je suis super objectif? Tu sais, c'est écrit, t'es chroniqueur d'opinion, c'est facile. Mais si t'es journaliste, tu sais, moi, ton Twitter de journaliste, as-tu le droit d'avoir une opinion sur ton article objectif le plus possible que tu as voulu faire paraître dans ton journal? Je sais pas.
Les journalistes sont directs, stricts, tu ne peux pas donner ton opinion, tu as des faits, puis même si tu es rendu à l'extérieur de ton travail, tu es reconnu, je ne touche pas au compte, mais si la
réalité. Ben, tu parles de d'autres choses, peut-être.
C'est ça. Tu peux donner ton opinion sur ce que tu traites au travail en tant que journaliste, de pouvoir, avec les règles journalistiques qui s'appliquent à ton travail, tu donnes des faits, ton opinion. C'est un choix de carrière, je pense.
Oui, c'est vrai.
Il y a quelqu'un qui. Un monsieur qui s'appelle David Brin, qui écrit dans le journal du temps, un livre qui s'appelait The Transparent Society. Et puis il disait que la transparence, que ça soit souhaitable ou non, c'était inévitable. Que dans le monde où on s'en va, avec la facilité avec laquelle, entre autres, la facilité avec laquelle l'information serait copiée. Et puis le fait que tout le monde est témoin de différentes choses et qu'on a accès à des moyens de publication, éventuellement, il n'y a pas grand-chose qui peut rester caché pendant longtemps.
Il n'y a pas de secret, il n'y a que des choses que vous ne savez pas encore.
Ouais,
c'est quelque chose comme ça qui dit.
Ou
bien,
t'as pas le temps de savoir.
Ou t'as pas le temps de savoir.
Mais là.
La dynamique, ça devient. En fait, c'est ça, pour revenir au cas des incidents où est-ce que des firmes se font pogner, soi-disant, parce qu'ils ont essayé de manipuler le réseau d'une façon qui viole les normes. Ben, à la longue, tous ces systèmes-là, j'ai l'impression qu'on se peut corriger. Je suis probablement un petit peu trop optimiste en disant ça. Broad-brush, mais. J'ai l'impression que dans une société où est-ce que tout le monde est, a droit à son opinion, puis tout le monde la partage, puis que ça circule dans sa tête de tous les côtés, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est misleading, qui fait croire à un certain nombre de gens ou à un grand nombre de gens quelque chose qui n'est pas vrai, ça sort, puis après ça, les gens vont se méfier plus longtemps. C'est pour la même raison que si tu te fais aborder à 11h30, le soir, c'est un coin de rue sombre par quelqu'un, tu as le réflexe de te méfier. C'est un, tu sais,
ouais. T'as un contexte.
T'es un étranger, mais t'as un contexte. Tu te poses la question. Là, ce qui se passe avec les médias sociaux, bien souvent, c'est qu'au début, ils sont remplis de gens qui ont des bonnes intentions, qui sont bien corrects. Okay? Puis au début, ça marche super bien. Mais ça, c'est le noyau. Après ça, t'as un halo de gens qui viennent se greffer, qui sont intéressés pour ça. Mais eux autres, ils contribuent, si tu veux, à la visibilité de cette affaire-là au cadre. Là, quand c'est devenu visible et que ça a une certaine importance, là, tu as la couche des gens qui veulent de l'attention qui viennent envahir ça.
Si on l'a vu dans toutes les sites web, dans tous les quelqu'un qui expliquait ça, tu sais, comme pourquoi quand je rejoins un nouveau service web, tu viens de la rue, j'en toujours les mêmes 50 personnes de Montréal. C'est toi qui disais ça.
Non, mais.
Oui, non, oui, non.
Dans chaque système.
puis là, ça tire, tu sais, le tonneur, puis ça en tire.
Mais c'est amplifié aussi par le fait que maintenant, tous les nouveaux services implantent eux-mêmes un réseau avec des friends. Fait que là, tu vas voir, c'est qui les amis de ton nouveau contact, puis c'est évidemment ce qui est dans la même gamme. Mais même s'il y a quelque chose qui parle des Power Rangers, au début, tu vas avoir du monde qui tripe sur les Power Rangers. Et là, si à un moment donné, pour une raison ou une autre, ça devient mainstream, là, tu vas avoir des marketeurs, n'importe qui.
Des gens qui vendent des figurines, des
comptes. Là, tu vas avoir un décalage. Le cycle, c'est la communauté s'établit, elle a de l'attention, les marketeurs arrivent. Là, il y a une réaction, puis un choc. Puis après ça, au bout de ça, tu as une sorte de système immunitaire qui s'est mis en place. Et puis les gens ont l'habitude, le réflexe de checker. Et puis les contre. Les anticorps sortent.
Oui, c'est vrai, les anticorps sont plus.
C'est un vision optimiste. En réalité, quand je regarde les emails, les hosts que je reçois de ma tante, puis ma tante Colin, ça fait 4 fois que je te le dis, là. Check ce hostbuster avant de l'envoyer. Là, à ce temps, il continue à l'envoyer, il me dit c'est peut-être un host. Tu sais, check avant, là. Fait que, je veux dire, c'est.
C'est plus fort.
C'est un combat qui finira pas, là.
Mais moi, souvent, ce que j'aime
dire. Non, mais c'est pas qu'est-ce qui est plus fort, là.
Non, c'est plus. C'est le désir de partager est plus fort que si tu veux ou si c'est pas vrai.
Surtout quand le risque est perçu pour tes proches, tu sais, genre, faites attention aux autos noires qui ont les flashs de lumière le soir. Tu dis là, tu veux pas que tes proches meurent de ça là, que tu les envoies, mais. Anyway, c'est ça mon petit mal.
Moi, je pense que tantôt, là, pour juste revenir un peu plus sur l'aspect transparence, que la transparence inclut nécessairement l'authenticité. L'authenticité va aussi amener avec le temps une tolérance, si on veut, à l'imperfection. Donc, que ce soit auprès des individus ou auprès des marques, là, le modèle de l'agence, c'est justement de contrôler une image, des relations publiques aussi. Donc, je pense que avec le web, avec les médias sociaux, les marques et les personnes vont pouvoir être ce qu'ils sont vraiment et on va accepter qu'ils soient comme ça avec leur visage plus sombre.
On a un bel exemple avec les prismes de zone qui avant n'étaient pas transparents et là il y a le droit à l'erreur, les patronnes, les peut changer, les peut dialoguer.
Il y a un droit Blackberry.
Il y a Étienne Chabot qui est dans une conférence en bas qui vient de communiquer quelque chose qui a exactement à voir. La traçabilité des users augmente de 80% la confiance des échanges entre utilisateurs.
Mmh. Oui, tout à fait. En fait, oui.
C'est l'un des péchés.
Tu peux. Oui, c'est une bonne idée parce que tu peux construire des systèmes. En fait, quand tu conçois un système, tu te poses la question, est-ce que je peux construire la traçabilité dans mon système? Tu peux le mettre. C'est sûr que c'est plus facile de ne pas le mettre parce que tu peux tout garder ou tout ça, tu sais. Mais plus t'en mets, plus tu fais d'efforts, puis les systèmes de communauté qui marchent bien en ligne, tu sais. Et comme Slashdot, pourquoi ça marchait Slashdot? Parce que c'était compliqué, là. Si vous avez déjà installé Slashdot, parce que c'était super compliqué, le code open source. Mais ça marchait dans leur communauté parce que tu avais une réputation. Puis quand tu étais un anonymous coward, si tu n'étais pas logué, tu étais. Socialement, c'est un. Il disait que t'es un pissou anonyme. C'est un peu compliqué.
La traçabilité n'est pas nécessairement associée à une personne réelle. C'était une identité
personnelle. Oui, mais ça, c'est pour l'anonyme. Mais après ça, effectivement, c'est une. Attacher une identité. Puis je me souviens à l'époque, il y avait le forum PSIT, donc PSIT.ca. Puis presque. Souvenez-vous, il y a une époque où tout le monde était anonyme sur Internet avec des nicknames. Okay? Le real name, là, votre vrai nom, là, ça fait une couple d'années, là, mais c'est pour rien que c'est attaché à Facebook. Là. Mais tout le monde avait un nickname. Puis moi, je suis arrivé dans le site un peu plus tard. Puis mon nickname, c'était mon nom de blog. C'était comme. Oh, gros secret! C'était facile. Pourquoi? Parce que je voulais attacher toutes mes identités ensemble, mes conversations. Parce que je voulais dire quelque chose d'intelligent, je voulais participer. Puis je disais des conneries, j'étais prêt à assumer mes conneries. T'sais. Puis, mais là, c'était pas dans cette culture-là. Cette culture-là était anonyme, mais le faire le plus fun de Psyte, c'était découvrir qui travaille où, puis c'est qui les vrais identités. C'était comme plus fun quasiment que n'importe quelle autre discussion. Puis moi, j'ai fait des mots après, comme « Ah oui, attends, lui, travaille là, c'est lui. » Puis là, j'ai un indice. Pendant des mois et des mois, c'est comme j'étais fasciné par ça. Puis là, je me disais, il y a un projet à faire comme si. Puis là, je ne pouvais pas fouiller les bases de données. Moi j'ai demandé à la fin de petit, je peux avoir une base de données. J'aimerais ça analyser toutes les posts qu'une telle personne a fait, tous les commentaires. Et lui, il vote toujours par en bas. Lui, il est toujours négatif. Puis là, dans Prey, je l'ai, la base de données, c'est mon système. Fait que je l'ai mis dedans. Fait que là, je suis capable de dire des affaires. Qui fait que, par exemple, 93% des gens votent positif sur un endroit. Et dans à peu près 80% des cas, quand ils votent négatif, ils mettent un commentaire qui explique pourquoi. Les gens me disaient, ah non, c'est pas bon pour les gens, les commentaires négatifs, les votes négatifs, tu sais. Je me disais, si les gens l'expliquent, tu sais, c'est. Moi, j'aime pas ce restaurant-là parce que je trouve qu'ils font le steak trop cuit, puis moi, j'aime le steak pas cuit, j'aime le steak saignant. Mais quelqu'un qui a les steaks bien cuits, c'est correct. Là. Un vote négatif, ça ne veut pas dire que c'est négatif pour tout le monde. Puis ça, je trouve ça intéressant de voir quand tu as tout le data. Puis là, ils commencent à avoir des systèmes qui exposent ce data-là. Il y a des communautés où tu as accès à ces données-là. Ils l'ont donné à des chercheurs ou ils le donnent au public. C'est pas MetaFilter où il y en a un qui a fait un quelque chose de public avec tout son data en demandant à ses users. Dig le fait beaucoup. Parce que
Boing Boing.
Ouais.
Il y a le nouveau de Henry Lafayette aussi, Hunch. Et je suis sûr qu'elle est en train de bâtir une base de données très intéressante pour étudier juste ces questions-là. C'est quoi la liaison entre un commentaire négatif et les mêmes choses que
checker? Oui, oui. C'est intéressant parce que quand tu as beaucoup de données, moi je pensais aussi que ça prenait beaucoup de données. Ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a des signaux, tu parlais tantôt de contexte, là, quand il est 11h30 du soir, puis tout ça. Il y a des signaux qui sont bien plus forts que d'autres. Par exemple, quand tu as plein de données que personne n'a voté dessus, le premier vote, il fait émerger quelque chose. Hier, je parlais avec le gars de l'ONF, il dit on a fait les plus populaires. Mais c'est certain que les plus populaires deviennent les plus populaires. Parce que c'est la page d'accueil. Fait qu'il y a ça aussi.
Le
système change ton rapport, la crédibilité. Le système peut en mettre plus, peut en mettre moins, peut l'orienter plus par là ou plus par là. Ça, c'est intéressant parce que chaque système qui se construit a la partie mécanique, qu'est-ce que je peux faire avec le système Internet, puis la partie sociale. Puis c'est les mariages les plus intéressants, c'est quand ça fait bien entre les deux. Ou souvent, la socialisation va se faire autour des mécaniques qui sont en place. Exactement pourquoi les gens n'aiment pas Twitter au début. Tu vois pas c'est quoi les mécaniques au début. Tu comprends pas c'est quoi les codes.
C'est pas user friendly.
C'est quoi un hat?
Les gens n'aiment pas Twitter parce que c'est excessif.
Ben, non, mais c'est d'autres choses. Puis après, on va changer de sujet, mais Sébastien a prouvé par un autre gars un article du début du siècle, 1908 à peu près, qui parle du téléphone. Okay? Là, il disait, c'est affreux. Je veux dire, tu peux te faire interrompre n'importe quand. Ça sonne dans ta maison. Tu es en train de faire d'autres choses. Puis là, ça t'interrompt. Puis là, il faut que tu parles avec la personne. Tu es obligé, là, si tu réponds, là, tu ne peux pas raccrocher. Tu as des normes sociales à respecter. Puis là, il disait ça. Puis là, quelqu'un dit, c'est exactement le même genre de commentaire qu'on a sur Twitter. Ça t'interrompt tout le temps. Puis là, faut-tu que je réponde ou je ne réponde pas? Puis c'était juste, ben, c'est un nouveau moyen de communication. Puis des gens n'ont pas développé les habitudes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est l'appropriation de...
Ben, c'est la gestion d'overload que visuellement, on est tous en train d'apprivoiser.
Oui, puis il y a des...
Tu plantes dans Twitter, tu es forcé...
Non, mais il y a des mécaniques, tu sais, comme les gens qui sont des power Twitter users, il n'y en a pas un qui va sur twitter.com sur l'interface web, là. Fait que il y a une réaction quand même drôle, c'est du corps. Mais c'est ça, mais quand tu arrives sur twitter.com, parce que tu en as parlé à Oprah, tu sais pas ça. Fait que ça, c'est fait que ce système émergent-là, sont un peu cassés. Puis au début, quand tu es un plus petit groupe, tu aimes quasiment ça quand c'est cassé, parce que ça garde. Ça prend un certain rythme initiatique pour rentrer dans le plan. On va sur quoi, là?
Juste pour finir, si tu me permets.
Oui, vas-y, vas-y.
Au niveau de la crédibilité, je pense que ça va être à chaque. Ça va être vraiment au public de décider si. Ce qu'ils font avec ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable. Moi, personnellement, je suis journaliste pigiste. Je le fais professionnellement avec MSN Sympatico, mais je le fais aussi personnellement avec Cinémaniax, avec Technocarotte. Si les gens viennent me lire sur Technocarotte, c'est eux qui décident que l'opinion que j'ai d'un certain appareil technologique, ben, ça vaut la peine d'être. Mais bon, moi, je me crois que oui, je suis pas une critique technologique. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde voit ça. Donc ça va vraiment être un opinion publique.
C'est bon. Je vous propose de... On change complètement de sujet. On peut parler peut-être, Luc, ça tente-tu de faire un géo et web?
Oui.
C'est comme un autre affaire. C'est un autre espace, c'est le cas de le dire.
Ben en fait, c'est relié déjà dans ta discussion, tu parlais de ramasser de l'information, puis quelque part, le fait qu'elle soit géographiquement taguée, il donne une signification. Puis, moi, justement, quand j'aborde les gens qui ne sont pas de ces professions traditionnelles-là, de géomatique, je leur dis que le géo, la géographie et tout ça, c'est en fait la science du où, qui est aussi important que qui, que quand, que quoi. Donc, le où devient important, puis on a parlé de Flickr qui a maintenant plus de 400 millions de photographies qui sont géotaguées, puis que quelque part, ça finit par donner une logique. Et même s'il y avait une couple de fausseté, comme avoir vu une pyramide à Québec, quelque part, c'est un seuil de tolérance. C'est que finalement, tout se croise quand tu es statistiquement capable de dire que Chaumédé, c'est à Laval et pas dans le Vieux-Québec. Donc, la masse devient critique. Moi, ce que je voudrais parler par rapport au GeoWeb, en fait, c'est que Google a vraiment affecté ou stimulé notre industrie, alors que tout ce que les gens en géomatique faisaient était souvent une interface très laide, une cartographie très statique, une interface aussi compliquée. Puis Google a stimulé, en fait, à la fois la simplicité des interfaces, mais aussi réinjecté de l'argent dans une économie qui est celle des firmes qui capturent la cartographie. Donc, dans le monde satellite ou image satellite, il y a Digital Globe puis GeoEye. Il y a quand même le satellite de GeoEye qui est parti en septembre dans le ciel. C'était drôle de voir le logo de Google sur une fusée, hein, parce que c'est tellement virtuel, Google. Mais en fait, c'est qu'ils startent des images très précises qui viennent de ce satellite-là. Et il y a d'autres mouvements qui se forment. Un joueur que les gens négligent peut-être, vous êtes sûrement conscient, mais Nokia a acheté Navtec. Navtec, c'est un des plus grands fournisseurs de données, souvent dans les GPS. Et on peut copier Intel qui disait Intel Inside, et vous voyez souvent dans des GPS, Navtec on board. Donc le contenu cartographique de Navtec est très important pour la localisation. Et Nokia a payé 6,5 milliards pour acheter Navtec.
Pas longtemps après, TomTom, le fabricant de GPS néerlandais, achetait TeleAtlas, le compétiteur de Navtec. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que en fait, il y a une guerre référentielle, parce que la géographie, ça ne sert à rien sinon de savoir où mettre les fameuses punaises. Et les punaises, c'est le web, c'est les photos des drôles de bébites, c'est les photos des gens qui ont une identité, une vraie ou une fausse. Et d'ailleurs, Google Latitude, vous avez vu Google Latitude, qui est un ajout à Google Maps, qui, quelque part, te localise sur une carte, et tu peux partager ou non ta localisation. Tu peux la partager précisément ou par ville, ou tu peux t'en créer une. Tu peux dire « je suis au Caire », puis rien bouger à ça. Puis c'est relié à ton réseau, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais avec ton compte Gmail, qui quelque part va devenir un réseau social. C'est, le géo est un peu partout. Un autre phénomène important dans ce monde-là, c'est le fait que tout le monde est un sensor, puis souvent un sensor ou un senseur un passif. Les gens qui ont des GPS maintenant de TeleAtlas, de TomTom, qui sont maintenant bidirectionnels, c'est-à-dire ceux de haut de gamme, là, peuvent envoyer ta position, pas seulement pour te servir à toi, mais pour être storé dans les serveurs de ces gens-là. Et quand il y a un nuage de points dans un champ, ben, ils comprennent qu'il y a une logique et donc une nouvelle route. Alors que un ou deux points, c'est peut-être quelqu'un qui est rentré dans le champ, alors que s'il y a des milliers de points captés, c'est qu'il y a vraiment une nouvelle route. Donc c'est la détection du changement que ça permet d'être un sensor comme ça. Et là, ils ont le choix de soit acheter de l'imagerie plus récente ou d'envoyer à une équipe confirmée qu'il y a une nouvelle rue pour mettre à jour cette information-là. Donc, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Mais pour lancer une discussion, je vous demanderais plutôt à quel point dans ce que vous faites, que vous soyez enseignant, entrepreneur ou conseiller, à quel point le géo est important et ou utile dans vos applications ou vos clients. C'est ma question.
Ou des, puis un complément peut-être, quelle utilisation surprenante ou intéressante vous avez vu de l'utilisation de ces données-là?
Il y a toujours des pubs, quelque chose qui est une fille qui vient de Trois-Rivières.
C'est une utilisation intéressante.
C'est juste par le IP, hein?
Mais c'est un bon point, c'est que une des choses qui facilite les senseurs, c'est la capacité d'avoir ce réseau satellitaire-là, qui est les points GPS, qui est parallèle à l'Internet. C'est un autre réseau international dont on ne parle pas beaucoup, qui était, comme Internet par exemple, à l'usage de la langue, qui commence à être plus possible d'utiliser aujourd'hui, mais qui n'est pas ouvert. Hein,
est-ce que quelqu'un a vu Loki?
Oui. Il est sur Price.com, c'est un plugin de browser. Puis ce que ça fait, c'est que ça dit où moi où je suis.
Où je suis.
Okay, puis Loki, c'est un autre collecte des données, c'est Skyhook Wireless. Donc c'est dans l'iPhone aussi. Mais ce que ça fait, c'est que sur l'ordinateur, ça prend les points d'accès sans fil qui sont autour de toi. Et ça reconnaît où ils sont. Il y a de la job de bras là-dedans, puis il y a des choses automatiques. Fait que là, ça dit si le OACI INET puis OACI INTL, parce que les points d'accès sans fil ou Wi-Fi sont en général fixes, ben, tu dois être là sur la carte. Ça marche très bien.
C'est absolument paniquant. Oui, c'est absolument paniquant comme précision.
C'est ça, il y a trois sources de localisation. GPS, c'est une coordonnée absolue qui est très précise, sauf en ville quand il y a de la réflexion sur le building. D'où les access points hotspots, qui eux, étant donné en milieu urbain, c'est l'inverse, il y a beaucoup de hotspots qui par triangulation positionnent. Puis dans les réglementations du 911 et tout ça, si tu n'as pas de GPS à même ton appareil, le minimum, c'est le cas tout le temps, c'est la triangulation des tours de télécom. Mais là, tu as 200-300 mètres de fuzziness. Effectivement, j'assistais à une présentation d'un ingénieur qui prépare les prochains satellites là, pour l'Agence européenne spatiale. Ils disent que le prochain satellite de télécom va être mixé intrinsèquement toujours celle de la position. Donc, la notion de position, temps et message va être dans le même flux. Là. C'est qu'il n'y aura plus nécessairement deux réseaux, télécom et position, mais ça va être les deux.
Donc, le GPS est toujours fuzzy.
Comment?
Ça dépend de ton appareil.
Les Américains.
GPS, c'est le système américain, puis il y a deux, trois systèmes parallèles qui se définissent comme le GLONASS en Europe. Puis,
le GPS est choisi par volonté l'armée américaine.
C'est ça. Ben, c'est une restriction sur les appareils. Donc, la résolution précise, disons à un mètre ou à un centimètre, je ne sais pas combien ils sont rendus, est une restriction. Donc, si tu fais un appareil grand public, on peut là-bas. Il n'y a pas de conférence. Quand ils auront des conférences, ils viendront chercher des chaises. mais donc, il y a une restriction commerciale ou c'est des règles fédérales aux États-Unis. Tu ne peux pas faire un GPS qui a une précision plus que X.
Ben, je pense que c'est descendu à 2-3 mètres.
C'est ça. Plus ça avance, plus tu peux, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Puis moi, je vous raconte une petite histoire. Quand on a fait notre application iPhone, on avait une idée géniale, c'est-à-dire vote pour la place où tu es présentement. C'est comme praise this place. Comme Shazam, si tu écoutes la chanson que ça dit, la chanson disait comme Shazam, mais pour les places, t'es où? Puis vote pour ou commente. Au lieu de dire trouve la place, rajoute un commentaire, écris un commentaire à l'endroit où tu te situes. Fait comme disait, c'est génial. Là, on a commencé à faire des tests. Deux problèmes. Premier problème, la résolution sur l'iPhone n'est pas si bonne. Des fois, il peut te manquer de comme 100 mètres ou 50 mètres. Puis, si tu es en banlieue ou en campagne, où il y a un magasin, tu es correct à 50 mètres, on le trouve. T'sais. Mais si tu es dans le centre d'une, la densité d'endroits est super forte. Tu es dans un food court, tu es à quel restaurant? Oublie ça, en plus, tu es en dessous. Puis, l'autre problème, c'est qu'en ville, les choses sont une par-dessus l'autre. Parce que dans le système GPS qu'on utilise, on a le latin, mais on n'a pas l'élévation dans les systèmes. Ça existe, il y a plein d'applications qui l'utilisent, mais dans les utilisations de consommateurs, on ne fait pas l'élévation. Ils font des tracks, de la course ou du hiking, ils l'ont. Mais la plupart des applications ne l'exposent pas. Fait que si tu es au quatrième étage, puis tu veux savoir c'est quoi le magasin au quatrième étage, tu ne l'as pas nécessairement. Fait que là, on était bien déçus de ça, de ne pas pouvoir. T'sais, la promesse que ça te dit que tu vas être capable de faire ça, c'est pas vrai dans la réalité, parce que t'as pas la précision, puis il y a des facteurs qui font que ça marche plus ou moins réglé ce point-là. Fait que là, ce qu'on est obligé de faire, c'est quand on part l'application, on dit à combien de mètres, par exemple l'iPhone puis d'autres systèmes, ils peuvent te dire à combien de mètres je pense que je suis certain. Puis quand vous utilisez par exemple Google Maps, oui, c'est le grand rond, puis là ça fait comme un rond plus précis, puis après il y a un fixe, quand tu vois un GPS fixe, là ici c'est pas mal, t'sais. Fait que ça aussi, d'autres variantes, c'est dépendant des appareils. Le temps, le time to fix, là, c'est combien de temps? Fait qu'il y a des appareils que c'est super vite, moyennement précis. Il y en a d'autres que c'est du processing. En fait, ça dépend de ce que tu as dans ton module. Fait qu'il y en a pour lesquels c'est pas important, il y en a pour lesquels c'est important. Fait que ça, c'est l'autre facteur.
Mais le système, pour au minimum, te donner des choix. Voici mes 50 minutes dans le coin.
Ben, c'est ce qu'on fait. On dit, ça tourne, là, je te dis, je suis à 200 mètres, je suis à 100 mètres, je suis à 50 mètres. Je dis, OK, ça c'est bon. Qu'est-ce que tu cherches? Soit je te sors tout ce qui est autour de toi, mais la problématique, c'est que. Il y en a beaucoup, fait que c'est lequel je monte en premier. Dans le cas de vote, je peux montrer ce qui est voté. Ou ce que je fais, je dis, donne-moi juste un keyword, là, aide-moi un petit peu. Ouais. Fait que je suis ici, si je tape restaurant ou sushi, je vais avoir les 10 places de sushi les plus proches d'ici. Ça marche. T'sais. Mais c'est une contrainte importante qu'on a.
Même quand les données sont rentrées soi-même de l'endroit, c'est correct quand même. C'est pas assez précis pour faire la chose comme telle, mais nous autres, on fait des tests pour faire l'analyse de Twitter. Et on est obsédé par le fait que le monde, ils mettent leur ville ou leur endroit. Et dans le système de recherche, oui, dans le profile, alors c'est self-reported data. Right. Alors on estime que c'est grosso modo à peu près. Right. Mais on a fait des tests dernièrement et le monde sont assez correct quand ils mettent les bonnes données dedans. Et pour faire l'analyse Twitter, on peut faire une segmentation ville par ville. J'ai fait la lecture de chaque entrée dans la base de données quand je l'ai construit. Et c'est très, 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 très fiable.
beaucoup plus que j'aurais imaginé.
Mais en fait, parce que c'est plus fiable quand t'es pas obligé, j'ai l'impression.
C'est pas obligé, et c'est ça, c'est un point fort. Mais l'autre point fort qui contourne ça, c'est que beaucoup de données, ça vient direct du iPhone.
Oui, exact.
Ou autre, mais oui, surtout l'iPhone. Exactement. Alors, c'est comme le à peu près et le précise se renforcent un à l'autre. Et quelque chose, je ne comprends pas exactement, mais même les données comme self-reported, c'est assez correct.
Mais c'est assez correct. J'avais fort tendance de dire je peux mettre du géodata, du géométadata sur tout objet social qui a été produit par quelque chose, soit que l'utilisateur lance ou qu'il le fait automatiquement. Puis ça, il y a les photos, il y a les Twitter. Puis moi, je suis surpris j'étais surpris, ben, je sais pourquoi techniquement, mais qu'il n'y avait pas, ça n'a pas arrivé avant que les laptops. Moi, j'étais sûr qu'Apple, il y a 4-5 ans, était pour sortir la géolocalisation dans les laptops. Je veux dire, les gens ont tellement des laptops que ça me semblait évident, mais c'était une question de problème technique. Mais c'est sûr que les caméras, maintenant, elles commencent à shipper avec des GPS. Toutes les caméras, ça va devenir...
Même les caméras vidéo.
Oui, les caméras vidéo. Donc ça, ce qui est arrivé, c'est que ces chips-là ont été... C'est une commodité maintenant. Ça commence, c'est super cher à rajouter. Puis là, après, ça coûte 1 000$ pour mettre une. Après, c'est 100. Après, c'est 10. Après, c'est 1 000$. Après, c'est 10 cents. Après, c'est point. Une scène dans ton appareil, si tu en achètes 3 000$.
J'ai vu un truc exactement ce que tu fais, ce que tu racontais, Nicolas, vous allez chercher la provenance sur Twitter. C'est une animation qui est depuis 2-3 jours sur le web, où quelqu'un est allé chercher sur Twitter toutes les phrases « I am landing somewhere », où j'arrive à, etc. Puis là, il retrace en arrière, d'après la localisation originale de la personne, c'est-à-dire qu'il était Montréal et j'arrive à Los Angeles. Bon, c'est un peu fuzzy parce que... Puis là, il pense sur une carte qui est en direct, en permanence, tu vois les pieds. Les gens sont capables d'une information sur Twitter plus d'une autre information sur Twitter pour tracer les voyages.
On pourrait faire une comparaison statistique entre ces données-là et les vraies données des lignes aériennes. Aussi, parce que c'est tout publié, on peut savoir quel avion va à quel endroit, à quel moment. Alors, tu peux faire...
On va voir le pourcentage d'utilisateurs Twitter.
C'est un ami qu'on pouvait capturer, là.
Non, mais c'est publié, c'est disponible sur le web. Tous les vols...
ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas si vous avez déjà vu les scanners de code qui sont des QR codes. Fait que là, tu te dis, ben, je suis dans cet avion-là. Fait que là, c'est ID-là, ça sort toute l'information qui est attachée.
Un bon exemple de ça, ce que j'ai vraiment compris, le géo, la communauté, le web, c'est le géo caché, parce qu'avec différents outils, ça se ressemble très peu. Avec un iPhone, avec un GPS très clair, avec tous ces outils-là, où les personnes le font même à la main dans Google Maps, ça commence à être très, très précis. En tout cas, on en parle dans le crowdsourcing. Mais c'est là vraiment que j'ai compris qu'avec tous les appareils, de façon manuelle, sur le coup, on est vraiment plus... Enfin.
Oui, mais on a passé une barrière qui nous amène à d'autres choses. Un projet qui est extraordinaire qui s'appelle OpenStreetMaps. C'est un projet open source qui est comme le Wikipédia des cartes. Puis au début, il y a 5 ans, tout le monde riait de nous. Tu vas comme Google, Téléatlas, Navtech. Tu ne vas jamais réussir. Puis là, il y a une question qui sort sur ces données-là. Quand on dit toutes les cartes qu'on a le droit d'utiliser, comme par exemple, on a le droit de prendre des photos aériennes de Yahoo, mais pas la géographie, parce qu'il y a des vecteurs. Fait que là, ils ont l'image. Fait que là, ils ont fait un éditeur où tu as l'image, puis tu as le data par-dessus, puis tu déplaces les points pour dire, tu n'es pas sur la rue, là. C'est écœurant, ils font ça. Mais il y a des gens qui font ça dans la vraie vie. Là. Fait qu'eux, ils ont fait des outils web pour tout le monde pour faire ça, pour dire, mais cette rue-là, elle est one way ou est fermée. Fait qu'ils ont parti le projet.
Puis là, au début. C'est perdu, puis si tu tournes comme Google te dit, si tu tournes à la gauche, tu prends une drop de 4 ans. Il y a un coup.
Oui, mais ces systèmes-là sont imparfaits, tu sais. Puis là, ce qui est fascinant, c'est qu'au début, tu regardes ça, puis les gens, ils disent. On va regarder San Francisco ou Montréal. C'est sûr que dans les grands centres urbains, au début, les projets commerciaux se sont concentrés où il y avait de l'activité commerciale. Mais là, quand il y a eu des trucs récemment en Afrique, là, ils ont essayé de sortir des cartes. Il n'y avait pas de cartes. Il n'y avait pas de cartes. Puis là, on dit aux gens, prenez ce petit bidule-là. C'est un GPS trace. Là. Puis là, tu marches. Tu regardes sur toi, puis tu marches. Puis comme tu disais, juste avec les points que tu vas collecter, upload tes traces. Là, ils ont mappé super rapidement des zones où il n'y avait aucune donnée. Soit parce que le gouvernement ne voulait pas qu'il y en ait, ou qu'il soit publié, ou soit parce qu'il n'y avait pas d'intérêt commercial à mapper ces zones-là. Puis là, on a vu vraiment un cas qui montrait comment ça pouvait être ce type de système-là, créer quelque chose qui rendait possible quelque chose qui n'existait pas avant.
D'ailleurs, même au Québec, il y a. Quand tu t'envoies dans le rural, c'est Google Maps, c'est comme ça.
Même un GPS, là, au Québec en général, là, mais à Saint-Alphonse de Rodriguez, là, dans la plupart des GPS, ils vont t'envoyer dans
c'est
le
ça. C'est ça, c'est chiant dans le cas où ils sont pas tout seuls.
Je laisse avec deux GPS, puis on va se retrouver dans le
Juste un dernier mot pour stimuler les blogueurs ou les gens qui sont dans les médias. Il y a un standard qui s'appelle GeoRSS. En fait, c'est de pouvoir taguer de façon normée 4-5 paramètres géographiques dans le top de n'importe quel flux. RSS, pour éventuellement piner de la nouvelle ou piner de l'information. Ça, c'est prometteur et je trouve que c'est pas assez.
C'est un plugin de WordPress, ça te rajoute un champ. Ouais. Fait que là, tu peux avoir des locations nommées, justement. Tu dis au bureau, puis il sait que le bureau, ça veut dire ça. Ou tu peux faire des recherches. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, tu as des systèmes comme Outside-In, puis nous, on va faire ça aussi dans Brave, où tu vas chercher des compléments. Fait que si je sais que tu es à Montréal parce que j'utilise le Key ou l'Attitude ou un autre système qui me permet de savoir t'es où, ben, la page d'accueil, je peux te montrer mon rap. Si je sais que tu es logué avec ton compte Facebook ou tu as rentré ta ville, je vais te demander la permission. Je peux-tu utiliser ta ville pour que ta vue, par défaut, ça soit ta ville? Là, je pourrais dire, ben, tu as le choix. Il y a des articles. Outside-In fait ça. T'sais, comme tous les articles qui concernent cette région géographique-là. Est-ce que tu veux ça? Donc, d'ajouter ces données-là, GeoRSS, c'est un standard super simple. Il y a un microformat aussi. C'est quelque chose qui a été rendu possible aussi parce que c'était quelque chose de simple. Avant, c'était compliqué. Il n'y avait pas de standard géographique. Puis là, c'est intéressant parce que toujours les experts qui disent « Ben non, ça ne peut pas marcher, c'est trop simple en affaire. » T'sais, les experts géographiques vont dire « Ben non, mais un point, t'es bien niaiseux en géographie, un point, une ligne. » Non, non, on a des shape files, ça c'est une géographie, c'est plein de points qui représentent... Non, juste un point, c'est correct.
Souvent, 99 fois sur 100, c'est correct.
Puis après, 3 points, c'est en as besoin de plus.
C'est grand luxe.
Puis là, nous, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que la première génération de geeks de géo, ils parlaient en latlum. En latitude et en longitude, il n'y a personne qui parle en latin. Tu ne dis pas je suis à moins 45 points. Tu dis je suis au parc La Fontaine. Fait que ça, c'est l'autre aspect qui est intéressant.
C'est pas correct, c'est long là.
Oui, c'est vrai. je trouve que ça arrive avec ding-dong là-dedans. Les gens nomment les lieux. Donc, on a vu qu'il y avait un travail important à faire dans les mots. Que les gens utilisent pour désigner une place.
Quoi qu'il y ait de l'ambiguïté, c'est beau, qu'il n'y en a pas sur les chiffres.
Ben non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet que, dans ton contexte à toi, ce mot-là, c'est ça qui veut dire c'est correct.
Ah, OK.
Comme par exemple, il y a des gens qui disaient à Flickr, ils travaillent avec ils ont acheté une compagnie qui s'appelle Geonames, qui est open source. Je ne sais plus que Flickr a acheté, mais. C'est des points nommés. Donc, ils construisent qu'est-ce que ça veut dire une place. Puis là, ils se sont rendus compte que les gens nomment les choses pas de la façon qu'on s'attend. Comme dans un parc à San Francisco, il y a une statue de Yoda. Puis tu peux dire, we meet at Yoda. C'est comme les gens disent ça, où on se rencontre à statue sur le Mont-Royal, au Tam Tam. Comme quelqu'un dirait, on se rencontre au Tam Tam sur le Mont-Royal. C'est où les Tam Tam? Ben, c'est où il y a des Tam Tam à tous les dimanches. Je veux dire, c'est évident. Fait que là, les mots, le vocabulaire, les taxonomies qu'on construit autour des noms de lieux, on peut les rattacher après ça à des points, tout ça, mais moi, ça me fascine la rencontre du langage et de la géographie aussi. T'sais. Comment les gens nomment les places, Les gens plus vieux n'aiment pas ça de la même façon que les gens plus jeunes. Parce
les changements de nom de rue. Je me rappelle quand je voyageais à Calcutta, c'était impossible de savoir où on était sur une carte parce que les rues changent de nom à peu près aux 2 ans. Il n'y a pas une carte qui peut suivre ça.
Justement, tu parlais de l'Afrique. À Bamako, par exemple, ça progresse très rapidement. C'est là que j'aurais eu besoin de GPS. J'en ai pas nécessairement besoin d'en vivre tous les jours, mais en faisant de la recherche sur le terrain là-bas, c'est là que j'en avais vraiment besoin. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est pas très, très courant d'utiliser des coordonnées géographiques pour faire des recherches sur le terrain, au moins en
ethnographique.
Alors que ça serait super utile. Puis tu pourrais justement coordonner les noms qui sont utilisés localement avec ces points-là. Tu peux faire.
Oui, parce que c'est intéressant. L'autre exemple qui me fascine toujours, c'est quand j'étais petit, j'habitais à Chateauguay, à côté de la réserve amérindienne de Kanawaki. Puis il n'y avait pas de nom de rue, puis pas d'adresse. Parce que tout le monde, dans leur contexte, tout le monde savait où les autres habitaient.
Ouais.
Donc, si tu dis ça s'en va chez M. Paquet,
ouais,
on le sait. Fait qu'il n'y a pas de système, puis c'est
comme ça. Moi, ma grand-mère habite dans un village, puis c'est sur le même rang que M. Couture.
C'est
le même que tout le monde irait faire, parce que la scale de la communauté a pas exigé la formation de langage.
C'est suffisant.
C'est même pas juste les villages. Quand j'étais à Séoul, les codes.
Tu sais, moi, tu voyages en continent.
Excuse. Les codes postaux, c'est vraiment des codes numériques que personne ne comprend, personne ne connaît, comme les nôtres. Les adresses, c'est ça, c'est rien d'autre. Mais si tu veux aller chez quelqu'un, c'est va à tel landmark, tourne à gauche, prends telle rue, là tu cherches tel magasin. Puis, si tu veux, toutes les directions, c'est des explications. Les gens ne se servent pas tant que ça.
L'adresse absolue, c'est toujours relatif.
C'est toujours relatif, c'est jamais absolu, c'est des quartiers. Tu sais que c'est dans tel quartier, dans telle région. Et puis des landmarks. Puis des descriptions, parce que il n'y a pas...
Google Maps, tu ne peux pas faire ça.
Ben, les points of interest, c'est un peu le... J'ai encodé les lieux-dits, c'est que finalement, il y a de la business pour beaucoup de couches. Il y a Urban Mapping, une compagnie aux États qui utilise le crowdsourcing pour définir c'est quoi les quartiers, pour vraiment arrêter de se s'obstiner sur c'est quoi le plateau, c'est quoi... Donc, les gens, par culture, sont en mesure de définir le quartier, puis lui, il vend ça à Google. Oui.
La joke qu'on dit toujours, c'est que si tu es un agent d'immeuble à Montréal, le plateau, c'est vraiment grand. Contexte. Il nous reste un petit 15 minutes avant le dîner. On s'attaque sur un sujet, on arrête ça là, lousse.
Pour la Géo, un petit programme qui est intéressant à mentionner de Microsoft, c'est Photoset. On a vu ça en ligne il y a 2 ans environ. Puis justement, les gens sont allés au décollage de Endeavour en Floride. Puis ils ont pris plein de photos. Ils ont vu ça sur Flickr. Navette spatiale, navette spatiale, navette spatiale. Puis là, PhotoSynth a repris ces photos-là. Tu peux voir la navette spatiale en quasiment 3D.
C'est parce qu'ils font le stitching de toutes les photos.
C'est du morphing stéréoscopique qui fait que tu as l'impression d'être.
Ils ont fait Notre-Dame aussi comme ça. La construction 3D avec une photo de centaines de kilomètres.
Si vous allez dans Panoramio de Google, il y a une fonction qui s'appelle Look Around. Puis s'il y a beaucoup de photos là, de cette région-là, vous allez pouvoir morpher et naviguer les photographies des gens qu'ils ont.
C'est assez intéressant. L'année dernière, j'étais à Where2, la conférence d'O'Reilly. Il y avait le WareCamp. Avec tous ces hackers-là d'open source, qui avaient tous leurs projets. Là, ce qui était le fun, c'est de voir où ils sont rendus, à quoi ils pensent. Puis là, une des affaires qui était super à la mode là, dans les discussions, c'était mapper l'intérieur. Tu sais, on a des cartes des extérieurs, mais il y a plein de cartes d'intérieur qui ne sont pas faites. Ouais. Fait que ça, c'était un sujet, tu sais. Puis, j'ai lancé une petite note parce qu'on a. Tantôt, je parlais avec Luc, puis là, on s'est fait un pré-géo briefing. Hey, t'as-tu vu ça? Puis là, on a dit, ben, on en fait un, tu sais. Fait que, il y a une grosse conférence géospatiale. En septembre ou en octobre, fait qu'on va essayer de faire un Where Can East à Montréal. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, là, en tout cas, on est deux à être d'accord, fait que ça va être bien. Même si on est juste deux, c'est l'avantage.
Moi, c'est deux, je suis d'accord. On est faisant dans les petits
domaines. Oui, c'est ça. Plus le bocal est petit, plus ouais, le gros poisson.
Elle est excellente.
Exactement. Puis il y a plein de monde. À Byron, qui est à Flickr, qui est un gars de Montréal. Si vous avez, si ça vous intéresse, il faut que vous alliez voir le blog de Aaron Strubcope. Il y a une obsession maladive entre la technologie nécessaire pour produire des cartes en papier. On appelle ça PaperNet.
Ah oui.
Parce que souvent, les cartes, c'est plus pratique quand c'est en papier. Mais tout est
tu t'en rends compte quand tu débarques à quelque part, tu n'as juste pas imprimé le titre de tes maudites cartes et tu n'as pas de Wi-Fi.
Oui, tu n'as pas de réseau. Puis là, tu sais, comme le guide papier, là, la section de la map là, est vraiment bien usée. Mais la capacité de prendre l'information numérique, la sortir dans un booklet, dans un papier, tout ça, c'est assez fascinant.
Par différentes cartes, je trouve ça super intéressant parce que je reviens de l'Espagne. Puis une des choses que je retiens le plus de l'Espagne, c'est qu'il n'y a pas de plan de ville. Fait que c'est, là-bas, ils faisaient une route, il y avait un arbre, ils contournaient l'arbre, puis ils y allaient comme ça, puis à la longue, il y a eu des vraies constructions, enlever les arbres, etc. Mais bref, il n'y a aucune façon de savoir où est-ce que tu es. Ils ont t'as beau avoir la carte, ils ne marquent pas tous les noms des rues, parce qu'il y en a trop, il y a plein de ruelles, il y a plein de petits détails, puis tout est pavé par lui, puis tu as l'impression que c'est tout correct, puis que tu vas bien te rendre au bon endroit, finalement, c'est impossible, puis tu tombes dans un cul-de-sac. Puis là, moi, je me disais, il faudrait là, une carte, un Google Maps, mais en pseudo-papier, parce que de plus en plus, on sait que cette technologie-là s'en vient. Puis, où est-ce que je peux, non seulement zoomer, mais je peux dire, OK, je cherche cet endroit-là, amène-moi là, puis si jamais, à un moment donné, je me fais entraîner, parce que j'en garde des boutiques, finalement, j'ai changé de bord de rue, comme un GPS, ça me relocalise. Mais surtout, les gens avec qui je voyage. Les gens que je voyage, je pourrais débloquer ma carte. Dans le fond, mon code de carte pour me garder en relation. Parce qu'on pense souvent à la géolocalisation comme quelque chose qui peut donner une information qui peut susciter des nouvelles situations, par exemple une publicité.
C'est l'exemple le plus poche. Tu passes devant le café et tu as un coupon.
Ça peut être poche, mais si finalement c'est que ça converge avec vraiment les intérêts,
oui.
Tu vas être vraiment content que tu dirais que tu es un peu pour moi sur la pizza quand elle allait avec ta mère.
Imagine juste que tu veux la suivre sur Twitter, tu fais follow this place, puis là, quand tu déclares ta location, tu sais qu'elle t'envoie quelque chose, ça serait là.
Mais au niveau de l'événementiel, par contre, tu sais, la programmation, galerie d'art, musée, etc., un show d'un bar.
Mais ça, c'est un super bon point parce que l'autre domaine qui était très intéressant à WordCamp, c'est le temps. C'est-à-dire que quand tu combines le temps et les cartes, l'espace-temps, c'est hallucinant parce que tu as le présent. Souvent, les applications géographiques voient beaucoup au présent où est-ce que tu es, mais toutes les applications de voyage, vous savez, c'est où est-ce que tu seras. Fait que ces déclarations-là de...
Il y a Bright Knight qui s'occupe de...
Bright Knight fait assez bien ça, puis quand tu modélises ça, tu te rends compte qu'il y a comme 3-4 valeurs qu'il faut que tu traques finalement. Là, on pourrait appeler ça ton endroit de référence. Mon endroit de référence, c'est Montréal. Je suis généralement à Montréal. C'est dans Doppler, par exemple, ton hometown, ton city, c'est Montréal. T'as ton current location, où est-ce que t'es? Ça peut être recalculé à toutes les fois. Puis t'as une déclaration d'intention sur un lieu. Puis un lieu, ça peut être Madrid ou ça peut être où Isabelle est située. Ça aussi, c'est une déclaration d'intention sur un lieu. Puis c'est exactement Brocade. Puis d'autres systèmes commencent à combiner ça. Puis après ça, la visualisation de cette information-là.
Google le fait maintenant, mais le point que je voulais amener, c'est que souvent, on va le regarder comme quoi que ça va susciter des nouvelles situations, OK? Puis on a souvent une vision crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on se demande comment est-ce que tous ces gens-là, entre eux, pourraient finalement se croiser dans l'espace-temps. Parce que le web, s'il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de limite d'espace-temps. Puis de recréer l'espace-temps comme on doit le recréer, maintenant je suis dans un village, pour croiser mon voisin, il faut que ça donne qu'on est en même temps sur la même route qu'on se croise. Mais tu sais, recréer l'espace-temps sur le web, c'est comme un défi, c'est comme quelque chose qui nous intéresse. On pense pas souvent aussi, par contre, à l'intensification de ce qui est déjà. Par exemple, je viens de parler d'événementiel, je pourrais savoir c'est quoi les nouveaux événements, mais voyons-le autrement. Je fais un événement, on est 60 sur le plancher, il est où le technicien de je sais pas quoi, plutôt que de faire le tour et de chercher, je sors ma map, j'écris son nom, il sort là, il est là, je dis bon. Ou encore, toutes les relations, ils sont où les enfants, ils sont dans le parc, puis je les lâche tous. C'est sûr que c'est un endroit super sécurisé. Tu n'as pas besoin de les avoir au bout de tes yeux, des autres au bout de ta carte.
Tu lui mets des implants. Tu lui mets des implants.
C'est un projet qu'on veut travailler dessus.
Et c'est une
idée. Qui était un système de triangulation RFID pour
jusqu'aux analyses du flow par rapport
à la compagnie qui sont
maintenant. C'est ça, mais on était à Planif là-dessus il y a 7 ans avec une business qui faisait des
affaires plus chères où il y a du
trafic. L'idée, c'est que la personne arrive dans la place, puis au lieu de se faire donner une badge avec une bande magnétique, il va dans le kiosque. Après ça, en fin de la journée, les gens qui ont le kiosque, ben, ils regardaient l'analyse des stats. OK, ben, regarde, il y a telle personne qui est restée 23 minutes
dans le kiosque. À jaser avec un de nos rushs, est-ce que tu es
capable de savoir si ça se passe? Et l'inverse, c'est ce qu'on dit. Puis, moi, je dis comme Bruno a dit, donnez-moi votre identification, mais tu pourrais dire, sors-moi la liste de toutes les gens qui ont dit, je suis d'accord de partager mon nom aujourd'hui, qui était à moins de 50 mètres de moi pendant la journée. Fait que combien d'espace, temps, d'identité?
Est-ce que ça s'est déjà fait de mettre des chips RFID dans la junk que tu donnes aux conférences?
Oui, ça se fait maintenant. Ça se fait des bouteilles de shampoing pour savoir.
Mais le RFID va traquer pour voir combien il y avait qui sont retrouvés dans le
tag.
C'est tracer le chemin de chacun de tes
bouteilles. Oui, mais c'est un tag, mais il faut que tu l'avances. C'est souvent un tag.
C'est souvent un name tag. À Aware aussi, il y avait quelqu'un qui traquait le signal Bluetooth. Il appelait ça les car parts, mais les chemins.
Tu
parlais de
petit,
mais quand
je
dis qu'on a
un petit stylo
avec. Oui, oui.
S'il y avait un RFID dedans, tu peux voir.
Tu sais
que mes stylos sont
allés. Bon, combien il y avait ça? Ben, c'est parce que ça prend des lecteurs.
Un RFID, c'est 10-20 pieds,
ça prend un lecteur. C'est utile chez Walmart quand il y a un camion qui recule et tu décharges des cases. C'est que tu peux être mobile en lecteur ou mobile en tag, mais il faut que tu aies les deux. C'est que tu peux pas laisser quelqu'un partir avec un RFID, ça sert à rien.
À moins qu'il y ait que dans tous les téléphones, qu'il y a dans toutes les poches, il y a un lecteur RFID 3 ans.
Tu peux faire du tourisme avec ton téléphone si les bornes avaient un RFID, puis tu peux raconter l'histoire de la borne que tu viens de donner.
C'est pour ça l'exemple que je donnais, c'était hyper localisé, c'était dans un espace de, je sais pas moi, 500 pieds, 800 pieds, comme ça. Donc l'idée, c'était là-dedans, dans cet espace-là, qu'est-ce qu'on est capable de tracker. Puis en même temps, il y a des chips RFID qui existent. C'est imprimé sur imprimante. Ouais. Le chip est passé.
Ça serait dans les épiceries, là, c'est de la micro-géométrique, c'est pour rendre plus cher ton facing, là, tes chips, tes menus, parce que le monde passe par là.
Puis, le monde passe par là, ils sont capables de aussi voir plus ton produit que celui de ton. C'est toutes des affaires. Mais c'est, effectivement, c'est de la micro-géolocalisation.
C'est un petit peu dans le jeu qu'on rentre dans l'air du géoplanning.
Ça
arrive sur Google Maps, plus normal, il y a des géospammers.
Il y a ça, mais il y a aussi, tu passes sur René Lévesque, puis moi, en vidéo, je passe à l'avant de chez Astral Media, puis je reçois le logo d'Astral en attachment à un SMS. Hey, s'il vous plaît, là, ça ne tente pas de recevoir votre logo, tu sais.
C'est quand même la facture.
Non, c'est avec vidéo.
Tu sais que la ville de Montréal a choisi en place de Hills and Fields pour le boulevard Saint-Laurent, mais ça ne marche pas.
Alors, ouais. Non, mais juste une petite parenthèse, Hills and Fields, on est très contents de tous les projets commerciaux.
Ouais.
On va les laisser se planter tout seul, on n'a rien à faire. Juste être patient avec tous les arbres de Québec.
Il y a une compagnie, je pense, c'est Intel Vidéo ou Intel Vidéo qui existe en ce moment qui est utilisée de façon commerciale. Elle se branche juste sur les caméras de surveillance, les épiceries puis les casinos. Puis c'est de la reconnaissance faciale. Alors, quand tu rentres, tu scannes ton visage, puis tu suis. Après, ça, tu sors des Google Maps sur le temps passé dans les allées, combien de temps tu t'arrêtes, le temps que tu passes dans les Google Maps, combien tu attends dans la caisse. Puis, ils ne suivent même pas du RFID, ils font juste de la reconnaissance faciale.
Intel Vidéo?
Ouais, je pense que c'est Intel Vidéo. Puis ils vendent dans le ça coûte une fortune, mais les casinos utilisent les épiceries.
Il y a une question de la micro-géographie qui n'a pas été mentionnée, je ne sais pas. J'aimerais savoir si quelqu'un sait si ça existe ou bien ça devrait exister. C'est dans le trafic, tout le monde qui est dans le trafic upload son information. Fait qu'en real time, tu sais à quelle vitesse tout le monde va.
Les tempérants des Navtech font ça, ils disent où il y a des bouchons parce qu'ils savent qu'il y a plein de points qui ne bougent pas sur cette
piste. C'est ceux qui valent 500 piastres et plus sont bidirectionnels, c'est nouveau ça. Okay. Parce qu'avant, t'étais passé.
Pour contribuer à ça, tu t'imagines
c'est par marque. Quand il va y avoir des standards, ça va être collectif, mais là, c'est par marque. C'est que si tu achètes un GPS d'une nouvelle marque, il y a juste toi qui contribue à l'intelligence, c'est que tu n'auras pas de
moyenne
de profit. Il faut que tu achètes des marques populaires pour espérer un feedback.
C'est pas dans l'open data.
Non, tout ça, c'est les milliards que dépensait Navtech et Thomson.
Ça va passer par
le
web.
Mais ça, déjà,
c'est
une compagnie
de
Toronto, ça s'appelle Interluan. Interluan, il y a un produit qui s'appelle IO Vector. Puis Puis IO Vector, en fait, ils ont un deal avec Rogers en ce moment, ils sont en train de faire leur deal avec Bell, qui ils pingent des téléphones cellulaires.
Okay.
Le premier produit d'IO Vector, c'est IO Traffic. Puis ils donnent en temps réel les maps de trafic, mais en pignant à quelle vitesse bouge le téléphone cellulaire. Puis IO Vector, mais en
fait. Ça leur coûte quelque chose de plus que ça coûte rien.
Non.
Ça coûte rien
au récepteur. Ben, c'est
pas
d'utilisation réseau,
fait
qu'il y a de la place
sur le réseau. Mais ouais, mais ils sont branchés directement sur la petite réseau. Puis, alors, ça fonctionne super bien en ce moment. Puis, alors, avec toi, en tout moment, ce qu'ils veulent faire aussi, c'est maintenant qu'ils savent voulu usager ça, on disait, ils n'utilisent pas le trafic, mais tu peux faire n'importe quelle application.
Ils pouvaient détecter les vrais postes de radio que le monde écoute, ça ferait des bons sondages aussi. Ouais.
Tu vois, ça, il y a présentement un land grab, sans mauvais jeu de mots, sur la géolocalisation, parce qu'il y a plein d'applications commerciales, puis la construction de ces réseaux-là a une valeur de plus en plus grande. Moi, ce que je pense aussi, c'est que finalement, ça va passer par le web, c'est-à-dire que là, dans les prochaines versions de browser, IE8, Firefox 3.5, il y a la géolocalisation built-in. C'est une composante de ton browser. Il y a un standard du W3C sur comment la géographie et le contenu interagissent ensemble sur le web. Fait qu'on est à, tu sais, les téléphones et tout ça, c'était comme la première génération d'appareils qui amenaient ça, là, ça s'en vient dans tous les ordinateurs.
Mais tu sais, c'est assez hallucinant. Tu leur dis par exemple que, tu sais, à 6 heures, il faut que j'aille chercher mes kids à la garderie. Mais s'il y a un bouchon de circulation, à 4h45, il va m'envoyer un message et il va me dire qu'il faut que je parle 20 minutes autour du bureau, sinon je ne serai pas en temps pour aller chercher mes kids à la garderie à 6 heures.
Une dernière fois, je voudrais dire pour les gens web plus génériques, le fichier KML, le format KML là, de Google après l'achat de Google Earth qui est acquis, c'est le cas de KML. Quand vous avez des clients web qui ont des magasins ou qui ont des projets ou qui ont des événements, une bonne idée, c'est de faire un KML pour chaque élément important. Puis vous faites un sitemap, mais pour les KML, puis les spiders de Google vont référencer pas juste votre contenu HTML, mais votre contenu géographique. Puis il va émerger très simplement sur le web dans les recherches et dans Google Maps. C'est que c'est comme planter, si vous voulez, un outil pour améliorer votre référencement.
Oui, c'est ça. Peut-être faire c'est un KML. C'est là que je m'en allais tantôt avec les spammers. C'est les gens ont commencé à faire du map, du MEO, là, Map Engine Optimization, pour publier tes données géographiques. L'autre affaire qui est extraordinaire, à mon grand plaisir, hier, Google a annoncé que toutes les données micro-formatées avec les informations géographiques serait présenté de façon augmentée dans un search result. Donc, si Google sait qu'une adresse dans la page, il va montrer ce lien-là avec l'adresse. Et toutes les plateformes qui font des micro-formats viennent de gagner un avantage. Avant, il y avait juste Yahoo qui faisait ça, puis tu disais, ben, c'est comme 3% ou 5% de mes users potentiels. Puis avec Google qui rajoute ça, ça vient monter la coche là, de 80% d'intérêt sur les micro-formats.
Cinéma un tel, il y a des pages qui peut-être derrière ont une information de géo, il va y faire des choses.
Exact.
C'est juste un KML.
Il y a un KML, c'est pour Google Maps, donc c'est dans Google Local, dans les maps.
Live aussi, il mange de Microsoft.
Live, oui, en fait, tout le monde utilise KML maintenant. Les micro-formats, c'est juste du metadata dans ta page. C'est des divs avec des noms de classe.
Une espèce de sémantique rajoutée.
Oui, c'est ça.
Par-dessus l'HTML,
c'est assez facile, ça s'ajoute à la main. Si tu fais des pages à main, ou bien si tu génères tes pages à partir de base de données, sur le template, c'est facile.
J'écoute pas cette semaine par rapport au micro data. Je vous ai donné une qui était une espèce de. Quelqu'un qui trouvait que le problème du microformat était de rajouter sur ce qui est déjà existant et de l'overloader les classes qui ne servent pas à ça, finalement.
C'est un hack.
Oui, c'est un hack. Tout à fait. C'est un hack qui est correct, qui ne cause pas de problème en tant que tel au niveau de la syntaxe.
Presque jamais. Il y a 3-4 cas documentés en merdant, mais sinon, ça marche bien.
Mais. Je vais retrouver le post là, c'est lui qui explique.
Ça parle vraiment de RDFA. RDFA.
Oui. Ouais. Ben c'est quoi donc par-dessus le RDFA?
RDFA, c'est RDF. RDF, c'est des trucs. C'est comme. C'est.
RDFA,
non, Non,
Oui, oui, c'est relation objet.
Tu dis des machine tags, c'est pas super. Comme mettons sur une photo, tu dis type 2 points screenshot. donc, tu dis une catégorie, et laquelle des valeurs dans cette catégorie-là. Mais vu que c'est des tags, ça peut être un peu n'importe quoi.
Et implicitement, c'est associé à l'objet.
Exactement. Et c'est ça le truc. C'est la troisième affaire, c'est l'objet, là. Un titre, il y a une valeur. Ça aussi, ça commence à émerger. Ça fait longtemps que ça existe, RDF, et les gens de Semantic Web, là, pour vous parler de ça. Puis, ça, c'est un autre bon cas d'étude où des gens qui veulent monter des systèmes parfaits d'ontologie sémantique et tout ça. Ça marche. Ça peut casser le nez, mais ça marche. Mais le chemin, là, puis Tim Berners-Lee, j'aime beaucoup, il parle maintenant de linked data. L'hypertexte, c'était les documents liés. Puis là, la prochaine, le web sémantique, le web 3, là, si on veut lui donner le numéro de version, c'est les data qui s'attachent ensemble. C'est-à-dire que je suis en train de faire une recherche justement sur Zenia Sushi à Montréal. J'ai une certaine information, mais je suis capable d'aller dans un autre système sortir, où, par exemple, tous les votes dans tous les systèmes sur cette place-là. Donc, linker des data entre eux. Fait qu'il y a des compagnies super intéressantes aussi qui font ça. Puis qui offre des données qui sont linkables. Une des plus. J'essaie de retrouver une couple de noms intéressants. Je sortirai ça tantôt, là, mais Aware, là, justement, il y en avait plusieurs qui présentaient des systèmes sémantiques géographiques. Fait que, par exemple, je vais ouvrir un nouveau pays, puis sors-moi les capitales des États aux États-Unis.
MetaCarta, c'est en tout cas c'est les kings en parsing de mots géographiques là, pour faire toutes sortes d'applications. C'est utilisé par Reuters et tout ça. Quand ils font qu'ils diffusent les nouvelles, ils sont automatiquement géographiquement disponibles à cause du parsing de MetaCarta.
Fait que c'est ça, donc d'associer, c'est de faire des données qu'on peut associer ensemble, c'est quelque chose qui va être extrêmement.
Est-ce qu'il existe déjà des sites agrégateurs?
Oui, c'est ça que j'essaie de retrouver. Tu avais oui. PowerSet qui faisait ça, qui était acheté par Microsoft.
PowerSet?
Oui. On va trouver. Un des bons podcasts là-dessus, c'est le Semantic Web Gap, qui s'appelle. Il parle de ces choses-là. Soit la sémantique, soit la géographie. Là. Semantic Web Gang, c'est un podcast. Puis ce qui est intéressant, c'est que les invités à ce podcast-là, c'est pas mal tous les innovateurs dans le domaine de la sémantique. Fait que ça fait une bonne liste. Thalys, une compagnie intéressante. C'est pas ça que je cherchais. Partez de ça, vous allez trouver des choses intéressantes. C'est une bonne piste de recherche. Il est midi. Il est midi. Si on veut manger, il faut y aller. Sinon, il n'y en aura plus, effectivement. Fait qu'on reprend.